Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À l'écoute de votre grand journal jusqu'à 20h et au soir d'un nouveau samedi, le 12 septembre, samedi de mobilisation entre crise économique et pandémique. Les Gilets jaunes ont-ils encore un espace et une résonance? Eh bien, avec nous ce soir, le patron du Parti communiste français. Ce sera aussi au cœur du débat des grandes voix. Laetitia Krupa va s'émouvoir notamment du fait que c'est en boucle sur toutes les télés depuis ce matin. À la une encore, le gouvernement en fait-il trop ou pas assez en matière de communication sur le coronavirus? Un conseil de défense pour nous dire de respecter les gestes barrières. Quelle réalité dans les services? C'est Rémi Salomon qui est avec nous, représentant des médecins de l'APHP. La musique nous accompagne aussi comme chaque week-end dans ce grand journal avec aujourd'hui le 7e album de Grand Corps Malade, hommage aux femmes.
Veuillez accepter mesdames ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage.
Mesdames, cet album que nous définira Fabien Lecoeuvre, nous racontant aussi le parcours fou de cet artiste qui se rêvait et se voyait basketteur. À partir de 18h30 ce soir en débat, on posera aussi la question suivante. Les maires verts vont-ils discréditer la cause écolo? D'écologie, il sera question aussi à 19h30 puisque je reçois Nathan. Il a 21 ans, il est étudiant grenoblois et le premier français à siéger à l'ONU dans un groupe dédié au climat. Nous sommes ensemble pour les deux heures qui viennent. C'est un grand plaisir que d'accueillir aussi pour nous informer Fabienne Lemoyle avant le journal. Bonsoir Fabienne.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et le carillon car il est 18h. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
J'ai ressenti ce que je ressentais en novembre 18, c'est-à-dire des gens qui visiblement n'appartiennent pas au monde des Gilets jaunes, qui essayent de nous rejoindre.
Des Gilets jaunes toujours motivés pour leur retour sur le pavé parisien, motivés mais dans un cortège clairsemé, faible mobilisation et quelques tensions.
Place de la Bourse à Paris, c'est Jean-Marie Bigard qui a été chahuté ce matin par des manifestants. Il est l'invité de ce journal dans 5 minutes.
Jean Castex contre les négatifs au Covid-19 pour la seconde fois cette semaine annonce à l'instant de Matignon fin du télétravail pour le Premier ministre qui peut sortir de l'isolement.
Des élus, députés et sénateurs qui demandent à Emmanuel Macron le rapatriement de 200 enfants de djihadistes français. Ils se trouvent en ce moment dans les camps en Syrie avec leur mère.
Et puis Neymar sera bien dans l'effectif du PSG face à Marseille demain, la star brésilienne qui change d'équipementier.
On est ensemble jusqu'à 20h donc, bienvenue à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le retour des Gilets jaunes, notamment à Paris, avec une mobilisation assez faible dans la capitale, mais quelques tensions et même des véhicules incendiés.
À défaut d'avoir pu défiler sur les Champs-Élysées, c'était interdit par le préfet qui avait dit pas de scène de chaos sur les champs. Ils étaient rassemblés place Wagram à quelques centaines de mètres, un cortège autorisé donc qui est en train de se disperser. Mathieu Bock, un cortège un peu clairsemé, vous m'avez dit, mais quand même motivé.
Oui, avec les mêmes pancartes que depuis le début du mouvement, hein, réclamant par exemple un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. Pour les manifestants d'aujourd'hui, rien n'a changé depuis le début du mouvement. Et c'est pour cela que Virginie, gilet jaune depuis le début, revient chaque semaine depuis bientôt 2 ans.
Et aujourd'hui, j'étais noyé parmi des étrangers.
Moi, ça a toujours été la même conviction. Je veux travailler, certes, mais je veux être payé. C'est-à-dire que je veux pouvoir payer mes factures jusqu'à la fin, me nourrir jusqu'à la fin, pouvoir faire un petit resto, de petites vacances de temps en temps. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Là, par contre, on nous fait travailler comme des petits Chinois. On nous balance des règles avec le CDI, qu'on n'est même plus en CDI parce qu'ils peuvent nous virer quand ils veulent maintenant. Donc c'est de pire en pire. Mais moi, c'est toujours pour ça que je suis venue.
Alors, en début de manifestation, il y a eu des heurts assez violents. Des voitures et des poubelles ont été brûlées. Les forces de l'ordre ont répliqué à coups de grenades lacrymogènes. Dans le cortège, assez peu de personnes portaient véritablement un gilet jaune sur les épaules, ce qui fait dire à Dragos, manifestant parisien de la première heure, que de nouvelles têtes sont apparues dans le cortège.
Et aujourd'hui, j'étais noyé parmi des étrangers. Et de temps en temps, je repérais des gens que je connaissais. En essayant de rejoindre cette place, j'ai ressenti ce que je ressentais en novembre 18, c'est-à-dire des gens très bien habillés, des gens habillés comme des gravures de mode, qui visiblement n'appartiennent pas au monde des gilets jaunes, qui essayent de nous rejoindre et qui sont en train d'attacher leur vélo. Hein. Donc aujourd'hui, pour la première fois depuis plus d'un an, j'ai ressenti ça.
Alors actuellement, le cortège se disperse tranquillement, sans heurts, au soleil, sous les yeux des CRS et des gendarmes mobiles qui encerclent encore la place de la Porte de Champéret.
Mathieu Bock, et dans l'après-midi, la préfecture a annoncé que 222 personnes avaient été interpellées, 86 placées en garde à vue.
Et Fabienne Lemoyle, plus fort que certaines revendications, hélas, diront certains, la force des images. Et celle du matin, en l'occurrence, sur l'autre point de mobilisation des Gilets jaunes à Paris, place de la Bourse, l'humoriste Jean-Marie Bigard, homme du peuple, chahuté, traité de collabo pour pour avoir dénoncé les propos d'un leader des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Bonsoir Jean-Marie Bigard.
Eh, hey, bonsoir. Merci Wendy de me recevoir.
Et merci de venir nous parler de ce qui vous est arrivé. Vous avez eu peur au fond ?
Bien sûr que j'ai eu peur, ça a été mon baptême du feu. Tout d'un coup, heureusement, j'avais deux personnes qui m'encadraient pour ma sécurité, mais quand même pris une bouteille dans la gueule, des coups de pied dans les jambes, et les deux gars, qui étaient très costauds et très compétents, ils m'ont dit « on va pas être assez de deux pour contenir cette colère, cette méchanceté à mon égard ». Tu vois, c'est incroyable, je me fais traiter de collabo alors que je condamne les propos d'un mec qui dit « flic nazi », ce que je ne peux pas, moi, accepter, tu vois. Je ne peux plus être bras dessus avec un mec qui a de tels propos. Alors, ça l'a beaucoup mis en colère et du coup, m'a envoyé des gilets jaunes, on va dire, un peu gauchistes et assez violents. Donc, j'ai été très déçu, bien sûr.
Quel est le sens de votre présence comme citoyen sur le terrain aux côtés de ces gilets jaunes et le message que vous voulez porter, faire passer, Jean-Marie Bigard, avec eux?
Je trouve que on a très très mal géré cette colère. Nos gouvernants ont été à peu près aussi mauvais qu'avec la crise sanitaire, c'est-à-dire ils ont été nuls, ils se sont contredits, ils nous ont menti, et aux Gilets jaunes ils leur ont fait des promesses de miettes de pain et ils n'ont pas compris quelle était la colère du peuple.
On vous sent déterminé, Jean-Marie Bigard. Ce qui est arrivé ce matin n'altère en rien votre envie de participer au débat et à la course politique citoyenne?
Ben non, parce que moi, dès que je sens qu'il y a une injustice quelque part, j'ai envie de me proposer.
Donc ça ne change rien?
Ben non, ça ne change rien aussi. Si je me laisse impressionner par juste un mec qui poste sur son Facebook des trucs pour essayer de me nuire, cette personne-là n'est pas digne de respect.
Arrêtons de l'appeler leader des Gilets jaunes pour vous, Jérôme
Rodriguez.
Non,
il est leader de rien du tout, c'est un connard, c'est tout.
Jean-Marie.
C'est un connard qui n'a absolument aucune parole, qu'un respect. Et je lui ai envoyé un petit courrier en lui disant « tu as quand même fait un truc extraordinaire, tu es arrivé à détruire l'amitié que j'avais pour toi ». C'est énorme, parce que j'étais mieux en général de ces armées que en contradicteur, tu comprends?
Bon, mais Jean-Marie Bigard, vous aurez l'énergie suffisante pour être devant vos spectateurs ce soir à Guy Pavas, à côté
Absolument.
De Brest, dans quelques heures.
À Guy Pavas, ça sera assez drôle, parce que je vais dire, j'ai été un peu malmené ce matin. Excusez-moi si j'ai des petits trous de mémoire, parce que ça fait 7 mois que je n'ai pas joué.
Il n'y en aura pas. Jean-Marie Bigard, merci de votre présence ce soir sur Europe 1.
Merci Wendy.
On le voit, de l'agitation effectivement place de la Bourse, pas de scène de casse de magasins en tout cas pour l'instant, mais pour autant, vous allez l'entendre, un grand ras-le-bol chez les commerçants près des Champs-Élysées, les commerçants fatigués par ces manifs à répétition, surtout Diane Berger, après une année déjà bien difficile.
Effectivement, ici, beaucoup de magasins sont restés fermés et ceux ouverts ont couvert les vitrines de palissades. C'est par exemple le cas du commerce de téléphone que gère Thomas à deux pas du Grand Palais.
La police a plutôt bien fait son boulot en soi, donc il se passe pas grand-chose. Donc on n'a pas de problème, mais on n'a pas de clients non plus. Ça reste un samedi sur Paris, surtout sur les Champs, et on est censé avoir un minimum de clients. Ouais. Et là, je pense que ça quand même refroidit pas mal de gens de se dire « bon, manifestation, barrage, etc. » Donc ouais, c'est calme.
Et après des mois de fermeture liés au Covid, la chute du tourisme cet été, cette manifestation, c'est l'événement de trop pour Régine, gérante d'une boutique de vêtements.
Ils ont des soucis, les gilets jaunes, mais croyez-vous que les patrons de petites PME comme ici n'ont pas de soucis non plus? L'année dernière, ils étaient là pendant toutes les fêtes et ils recommencent là à la rentrée septembre. C'est pas comme ça qu'on va remonter un peu la France, je pense pas.
Un peu plus loin, Paul tient une librairie spécialisée dans les livres anciens. Il se tourne vers ses collègues quand je lui demande combien de clients il y a eu aujourd'hui. Tous répondent d'un coup, zéro.
Si ça continue comme ça, je pense que le Faubourg Saint-Honoré sera vide, il n'y aura plus de commerce. Maintenant, c'est désert et donc, en fait, les commerces, au fur et à mesure, ferment. Les restaurants, maintenant, n'ouvrent plus le samedi. Puis les loyers continuent à courir. Donc, en fait, même si nous, on fait plus de beurre, on doit payer.
Alors, pour faire face, il envisage carrément de déménager hors de Paris.
Diane Berger.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Et Fabienne Lemoyle à 18h08 pour vous informer. Faut-il fermer les bars ou les restaurants plus tôt, interdire certains regroupements? Eh bien, les préfets des Bouches-du-Rhône et de la Gironde ont jusqu'à lundi pour faire remonter leurs propositions au gouvernement.
Du coup, Adrien Beck, on planche tout le week-end en préfecture pour trouver la parade à l'épidémie de coronavirus en multipliant les échanges avec les acteurs locaux.
Oui, car le temps est compté et ça, on l'a bien noté dans les préfectures. C'est sympa d'apprendre le vendredi soir qu'on doit avoir un plan de bataille pour le lundi, ironise un acteur du dossier avec qui je viens d'échanger. Alors les préfets enchaînent aujourd'hui et demain les réunions avec les autorités de santé, mais aussi bien sûr les maires à Marseille, à Bordeaux, en Guadeloupe. Ça, c'est le souhait du gouvernement et des élus locaux, faire que les mesures soient prises au plus près du terrain. Alors que peuvent faire les préfets en fait? Le cadre est défini dans la loi, par exemple limiter les déplacements dans un rayon de 100 km, fermer ou fermer partiellement les bars, les restaurants, les bibliothèques, les gymnases ou encore les musées, interdire les marchés, des mesures très précises mais aussi parfois très restrictives qui seront donc de la responsabilité des préfets et des élus locaux. Ce sera ensuite à eux d'assumer ces décisions.
Et puis ça y est, Jean Castex peut sortir de son isolement, deuxième test négatif ce soir pour le Premier ministre. C'est ce qu'annonce Matignon. Il avait été en contact avec une personne positive au Covid-19, en l'occurrence le patron du Tour de France. Plus de télétravail donc pour Jean Castex.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À suivre sur Europe 1 dans ce journal, 76 élus, des députés, des sénateurs qui interpellent Emmanuel Macron dans une lettre ouverte. Ils réclament le rapatriement de 200 enfants français de parents djihadistes qui sont toujours dans les camps en Syrie. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 18h11, et si vous nous rejoignez au cœur de l'actualité, le président Emmanuel Macron une nouvelle fois interpellé Fabienne Lemoyle pour que soient rapatriés les enfants de djihadistes français qui sont toujours présents dans des camps en Syrie, et le plus souvent d'ailleurs avec leur mère.
L'interpellation dans une lettre ouverte, l'appel de 76 parlementaires, députés, sénateurs de la plupart des formations politiques qui demandent le retour en France de près de 200 enfants. Et cet après-midi, Damien Mestre, ce sont les familles de ces enfants qui manifestaient à Paris devant le secrétaire d'État à l'enfance.
Monsieur le Président de la République, vos petits-enfants ont fait leur rentrée des classes la semaine dernière. Les nôtres n'ont jamais vu d'école.
Ce que l'on vient d'entendre, c'est le début d'une lettre que ces dizaines de familles ont envoyée à Emmanuel Macron. Une lettre dans laquelle on peut lire les conditions de vie terribles de ces enfants retenus au nord de la Syrie. Écoutez Pascal, cela fait plusieurs semaines qu'elle est sans nouvelles de ses quatre petits-enfants. Ils ont quitté la France avec leur mère en 2015.
L'hiver, quand il fait froid, l'eau qui ruisselle gèle. Les vêtements humides dans les tentes gèlent. Après, il y a des maladies. Il y a beaucoup d'enfants qui ont des grosses mycoses, des champignons dans la bouche. Donc, au bout d'un moment, ça s'apparente à de la maltraitance.
Ses parents ont l'impression d'un véritable déni de démocratie. Un père m'a confié son dégoût. Ce n'est pas de la justice, c'est de la vengeance, m'a-t-il dit. Une position que partage Marie Dosé, l'avocate qui porte ce combat depuis des mois.
La force de notre démocratie, c'est ces enfants sont des enfants français, on les rapatrie. Ces femmes sont des femmes françaises, on les juge et on prend nos responsabilités. On ne transforme pas des gamins en fantômes parce que sinon on donne raison à ses ennemis et ils gagnent contre vous.
76 députés et sénateurs ont lancé un appel pour porter ce message au niveau parlementaire.
Damien Mestre.
Dans l'actu sportive et en football, en l'occurrence, bonne nouvelle pour les supporters parisiens puisque Neymar, qui a été privé de match à Lens pour cause de Covid, sera bien dans l'effectif du PSG demain pour affronter Marseille.
Alors on y reviendra dans le journal des sports dans quelques minutes avec Jean-François Pérez. Mais l'autre actualité, Julien Froment, qui concerne le joueur brésilien, eh bien, c'est qu'il a trouvé une nouvelle chaussure à son pied.
Oui, adieu Nike et sa virgule, place désormais au félin allemand Puma. La star brésilienne vient d'officialiser sa nouvelle idylle marketing. Rien n'a filtré sur les chiffres, mais Neymar pourrait touché selon certaines estimations entre 8 et 12 millions d'euros par an. Ce transfert surprise, c'est du gagnant-gagnant pour tous les partis, comme l'explique Virgile Caillet, président de l'Union Sport et Cycle.
On sent bien que la star brésilienne arrivait un petit peu à la fin de son histoire avec la marque américaine, hein, près de 15 ans. Par ailleurs, eh bien, Puma avait besoin de renouer un peu avec son passé, de retrouver les stars du foot, hein, parce que la marque Puma a été construite autour de ces ambassadeurs mythiques qui étaient Pelé, Cruyff ou d'autres. Pour Neymar, c'est aussi l'occasion de se relancer, de redevenir un petit peu l'acteur majeur d'une marque.
Oui, nouvelle tête de gondole pour Puma, car au PSG, comme chez Nike, le Brésilien se fait peu à peu dépasser par son coéquipier, le Français Kylian Mbappé. Et ironie de l'histoire, en tout cas, Neymar rejoint une marque qui sponsorise un petit club du sud de la France, l'Olympique de Marseille.
Ah ben bah voilà, c'est pas mal pour demain soir. Merci Julien Froment.
Bon, la suite de l'autre sport, en dehors des chaussures et des lacets, c'est dans quelques instants après la météo. Merci à tous les deux, à demain Fabienne Lemoyle.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Entre les mains ensoleillées de Valérie Darmon. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors on aime et ce type de programme, toujours aussi chaud demain pour ce 13 septembre.
Effectivement, soleil, chaleur, faible risque d'orage sur les Alpes du Nord en fin de journée. Une journée tout à fait estivale sur l'ensemble du pays. Passez aussi les quelques bancs de brouillard qui se formeront à l'aube sur le Pays Basque et le long de la Manche un petit peu le matin. Partout ailleurs, le soleil qui sera omniprésent toute la journée. Les températures sans surprise qui poursuivent leur hausse avec 21 à 35 de la Manche au pied des Pyrénées. Pointe locale à 36 dans l'intérieur de l'Aquitaine. Je vous donne quelques maximales. 35 à Angoulême et à Bordeaux, 34 à Biarritz et à Poitiers, 32 degrés au Mans et à La Roche-sur-Yon par exemple, à Montpellier, Paris, 31 degrés, 30 degrés à Strasbourg, 27 à Brest et Quimper, sans nuages cette fois, contrairement à aujourd'hui, et 23 degrés à Dunkerque.
Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve dans un petit quart d'heure sur Europe 1. Les voici, tous les sports avec Jean-François Pérez. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Le Tour de France, bien évidemment, pour commencer avec déjà la 14e étape, ça passe vite. Hein.
Oui.
Il pédale beaucoup plus vite que nous, une victoire en solitaire.
Ça, hein. Ouais. Soren Krag Andersen, le rouleur de l'écurie Sunweb, s'impose à Lyon au terme d'une étape très animée. On va y revenir. Bonsoir Axel May.
Bonsoir.
Étape très animée, mais sans conséquences au classement général.
Oui, on a eu une échappée avec notamment Stéphane Kung, le Suisse, qui a reçu le prix de la combativité. Mais c'est surtout, comme on pouvait s'y attendre, hein, à l'approche de Lyon que s'est jouée l'étape avec l'enchaînement Côte de la Duchère, Côte de la Croix-Rousse. Le Danois Krag Andersen tente une première fois de sortir du peloton. Puis Julian Alaphilippe est en contre. La révélation suisse Marc Hirschi tente également sa chance. Et à 3 km de l'arrivée, Soren Krag Andersen insiste. Cette fois, c'est la bonne. Il s'offre son premier succès sur le Tour. Lui, que le public français avait pu voir lever les bras il y a 2 ans sur une semi-classique Paris-Tour. Et à propos de public, Jean-François, les 500 derniers mètres étaient interdits à huis clos ici à Lyon. Et image assez paradoxale parce que tout le long du parcours au départ de Clermont-Ferrand,
il y avait beaucoup de monde,
des spectateurs agglutinés jusqu'aux 500 derniers mètres long des barrières. Et puis ensuite, personne sauf que quelques invités et de nombreux policiers. Le maillot jaune hein, est évidemment toujours sur les épaules de Primoz Roglic.
Merci Axel. Et puis vous le savez, c'est peut-être pour ça, hein, Lyon, son maire a fait savoir que le Tour de France étant polluant et machiste, c'est peut-être pour ça qu'on avait décidé de fermer les quelques derniers hectomètres de la course. C'est bien dommage en tout cas. Voilà, merci Axel May. Et puis à plus tard demain, on retrouvera la montagne d'ailleurs avec une arrivée sur un col haute, hors catégorie, le col du Grand Colombier.
C'était le Point Tour de France avec Total Direct Énergie. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Du foot aussi au programme, troisième journée de Ligue 1 et 2 rencontres à l'affiche ce soir.
Oui, avant Saint-Etienne-Strasbourg à 21h, un match à suivre bien sûr en intégralité dans Europe 1 Sport. On va prendre la direction du stade de la Mosson où Montpellier accueille Nice. Bonsoir Romain Boselli.
Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
On est en deuxième mi-temps et les Montpelliérains qui font la course en tête.
Effectivement, 2-0 pour les Montpelliérains. On joue la 62e, 2-0, c'est clairement mérité pour les Héraultais sur cette partie. On va rappeler les buteurs, l'ouverture du score magnifique signé Laborde sur une magnifique remise d'Andy Delors, les deuxièmes buts à l'instant pour les Montpelliérains, pour cette tête donc des Montpelliérains qui ont doublé la mise à l'instant avec ce deuxième but qui fait mal, clairement mal sur ce corner. 2-0 pour les Montpelliérains.
Eh ben c'est bien, l'ambiance, il y a au moins 5000 spectateurs, vous le savez, c'est la jauge. À tout à l'heure, Romain Boselli pour la fin de ce match.
Et avant le classique de demain, PSG-OM, c'est l'entraîneur parisien qui lance le match.
Oui, Thomas Tuchel était en visioconférence cet après-midi, vous connaissez la rivalité Wendy entre l'OM et le Paris Saint-Germain. Eh bien Thomas Tuchel n'a toujours pas digéré les manifestations de joie des joueurs et des supporters de l'OM après la défaite parisienne en Ligue des Champions.
Les Marseillais qui sont devenus allemands, le temps d'une soirée du moins.
Oui, ça fait quelques semaines
maintenant.
Humour un brin grinçant au micro de Julien Froment.
Ils ont célébré l'année dernière notre défaite contre Manchester United. C'est clair qu'ils ont célébré notre défaite dans une finale. Voilà, c'est comme ça. Pas de nouvelles. Oui, je veux dire un mot pour la célébration de OM. Si tu dois célébrer une défaite de quelqu'un d'autre, ça veut dire que tu n'as rien de célébré toute seule. Hein.
Voilà, on appelle ça se moquer. Thomas Tuchel qui ne décolère pas non plus contre les instances et le calendrier, il trouve que ce match arrive trop tôt. Des retours tout de même dans le groupe du PSG et pas des moindres. Neymar, Di Maria, Navas ou encore Paredes, même s'ils sont à court de forme. Absents en revanche toujours Mbappé, Marquinhos et Icardi. PSG-OM c'est demain 21h, soirée spéciale dans Europe 1 Sport avec notamment le grand retour du studio des Légendes jusqu'à 23h30, notre antenne demain soir. Et puis dès 20h, invité exceptionnel sur Europe 1, Olivier Giroud, l'avant-centre des Bleus, champion du monde
monde 2018. Il sera avec nous à 20h30 à l'occasion de la sortie de sa biographie « Toujours y croire » aux éditions Plon.
Quelques mots pour finir de Formule 1, Jean-François.
Demain, c'est le Grand Prix de Toscane sur le circuit du Mugello, premier du nom. C'est le grand retour de Gasly, le magnifique Pierre Gasly, qui avait gagné dimanche dernier sur le circuit de Monza son premier Grand Prix, le premier pour les Français depuis presque 25 ans. Eh bien, dur retour à la réalité pour lui, éliminé dès la première manche des qualifications. Il partira sur la 16e place de la grille. La pole, c'est pour Lewis Hamilton. Autrement dit, les choses reviennent à la normale, on va dire. Charles Leclerc sur sa Ferrari est 5e. Un petit mot de rugby, top 14, deuxième journée. Toulouse bat La Rochelle 39 à 23. Et puis tennis, ce soir, 22h, rendez-vous, finale féminine de l'US Open. La japonaise Naomi Osaka face à la biélorusse Victoria Azarenka.
La suite des sports, c'est à 19h10 sur Europe 1. Merci, à tout à l'heure.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Dans un instant, l'appel à la responsabilité individuelle de Jean Castex dans la lutte contre le coronavirus. Est-ce vraiment suffisant? Et les autorités, de manière générale, comprennent-elles l'épidémie dans son ampleur? Et nous, dans tout ça, eh bien, nous parlons de ce sujet de préoccupation majeure avec Rémi Salomon, qui nous éclaire, chef de service à l'hôpital Necker et président de la commission médicale de la PHP.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Bonsoir à tous, si vous nous rejoignez, 18h22 sur Europe 1 dans ce grand journal. Mon invité a été le premier, à la veille du premier tour des municipales à la mi-mars, à réclamer sur notre antenne d'ailleurs, un confinement strict de la population pour sauver des vies. Bonsoir Rémi Salomon.
Bonsoir Wendy Bouchard.
Vous êtes président de la commission médicale de la PHP, chef de service à l'hôpital Necker. Les autorités, aujourd'hui et 6 mois après ce cri d'alarme de votre part, Rémi Salomon, ont-elles pris l'ampleur de cette et pris conscience de l'ampleur de cette épidémie?
Écoutez, je pense que oui. Tout le monde a en tout cas les autorités, certainement pris conscience de l'ampleur du problème, avec un certain degré d'incertitude. Mais on sait aujourd'hui, et les indicateurs sont là pour nous dire que l'épidémie reprend. Dans certaines villes, la situation est déjà assez critique. En région parisienne, pour le moment, si on regarde le nombre d'hospitalisations, ça reste encore faible, mais les indicateurs nous disent que le risque que ça monte dans les prochaines semaines, malheureusement, est important.
Dans la stratégie, s'en remettre au préfet, en l'occurrence dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi en Gironde, pour prendre des mesures en local, cela vous paraît aussi satisfaisant?
Je ne sais pas si en local, vous savez, local, c'est les grandes métropoles, et donc c'est faire un confinement, j'entends parler éventuellement de confinement local. Si on doit confiner Paris et la région parisienne, c'est un impact majeur sur l'économie.
Évidemment.
Donc je ne sais pas si ça a beaucoup de sens de dire un confinement local, pareil pour Marseille, pour Bordeaux ou pour Lyon. Donc je dirais plus qu'un confinement local, c'est vraiment un respect des mesures barrières. Je pense que les Français ont compris dans leur très très grande majorité, quand je me promène dans la rue, la plupart des gens portent le masque. Ce qui est peut-être un peu moins évident, c'est le port du masque en lieu clos. Ça, c'est un point, je pense, qu'il faut avoir en tête. Le risque est beaucoup plus important quand on est dans un lieu clos, et surtout si on est nombreux, surtout si ce lieu est mal ventilé, et a fortiori si on baisse le masque. Donc, vous savez, rester dans une salle de réunion pendant 2 ou 3 heures de suite, on prend le café et à un moment donné, on tombe le masque. Donc là, ça, c'est un vrai problème. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir conscience qu'il faut être très strict dans les lieux clos, surtout dans les lieux clos, garder le masque, ne pas avoir bien le garder sur l'ensemble du visage, la bouche et le nez, et puis bien ventiler ces lieux clos. Alors il y a un lieu qui pose problème, évidemment, c'est les restaurants, les bars. Donc là, il peut y avoir une question qui se pose, surtout que les températures vont baisser quand on est en terrasse, à l'extérieur, si on est un peu distant, les tables sont distantes les unes des autres, ça va. Si on doit se mettre à l'intérieur, ça pose problème.
Autre lieu qui interroge, et vous êtes au contact des enfants, vous connaissez le sujet, c'est l'école, évidemment, avant de parler ensuite des tests, Rémi Salomon. Est-ce qu'il faut imaginer une politique ciblée à l'endroit de ces enfants, et je pense aux plus petits, dès la maternelle, alors que vont se conjuguer toutes les maladies infantiles, les virus de saison? Comment on va pouvoir faire la part des choses sans inquiéter, outre mesure, les parents et les professeurs?
Oui, je pense que le message principal, c'est qu'il faut rassurer les parents, les enfants, surtout les jeunes enfants, école primaire, maternelle, crèche maternelle, élémentaire. Les formes, le Covid n'est pas grave chez eux. C'est réellement une maladie bénigne. Les cas graves sont tout à fait exceptionnels. Deuxième chose, les enfants transmettent, contrairement à ce qu'on avait pu croire initialement, les enfants transmettent peu le virus. C'est surtout, les contaminations se font surtout entre adultes ou d'adultes vers les enfants. Donc il faut pas paniquer. protéger. Si l'enfant en arrive, effectivement, comme vous l'avez rappelé, dans une période où d'autres virus vont circuler, et donc les enfants, ils sont comme tous les hivers, comme tous les automnes, ils vont avoir d'autres virus, ils vont avoir le nez qui coule, voire un peu de fièvre. Surtout, ne vous précipitez pas pour aller faire des tests Covid, ça n'a pas de sens. Sauf bien entendu si l'enfant a été en contact avec un adulte qui lui-même a un test positif. N'allez pas au service des urgences pour faire des tests. Les urgences sont déjà engorgées. Allez voir le pédiatre si votre enfant est malade, mais n'allez pas aux urgences faire tester pour le Covid, sauf situation particulière où dans la famille, il y a déjà des personnes qui sont atteintes du Covid.
Alors les tests précisément, c'est aussi le nœud du problème et de la réflexion en ce moment, Rémi Salomon. Ils sont victimes de leur succès, les laboratoires pris d'assaut et avec des délais d'attente aujourd'hui de l'ordre de 6 à 7 jours, qui correspond à la durée de la septaine, puisqu'on vient de réfléchir à raccourcir cette quatorzaine à 7 jours aujourd'hui. Alors là, on est dans un paradoxe qu'on ne maîtrise plus non plus, citoyens. Comment on fait ?
Alors, c'est vrai que les tests sont efficaces si on a un résultat rapide. Donc, aujourd'hui, il est vrai que des délais plus longs que 24-48 heures posent un vrai problème. Il faut réserver, on fait beaucoup de tests. Il faut vraiment cibler les tests pour les gens qui sont malades, qui ont vraiment une suspicion ou qui ont réellement été en contact avec quelqu'un qui a déjà eu un test positif.
Donc, les prioriser, ces tests.
Absolument, ça c'est vraiment essentiel, ça a été redit hier, il faut vraiment prioriser. Et il y a un autre point qui doit être absolument dans la tête de tout le monde, c'est qu'il faut s'isoler. Si on a une suspicion de Covid, il faut s'isoler en attendant le résultat du test. Ça, je pense qu'on ne l'a pas assez dit. Ce qu'on appelle le contact tracing nécessite une bonne information, une bonne adhésion de la population. Vous savez, souvent on dit les Français sont un peu méfiants, ils ne savent plus trop qui croire, on a beaucoup d'informations parfois contradictoires, et donc c'est important d'expliquer aux gens, et on ne l'a peut-être pas suffisamment fait, la nécessité de, dès que vous êtes en suspicion de Covid, isolez-vous et un test rapide. Alors on va avoir, j'espère, des tests qui vont nous permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapides, on attend avec impatience, et ça permettra évidemment d'être beaucoup plus efficace. Et il faut aller dans les endroits où les gens ne vont pas forcément se faire tester, car ils peuvent avoir crainte d'être isolés, pour des raisons professionnelles ou autres. Donc il faut aller dans ces endroits-là, il faut du monde pour expliquer tout ça. Et je voudrais dire, peut-être avant de terminer, parce que je représente une grande communauté médicale, la PHP, que l'hôpital se prépare à recevoir plus de patients, même si aujourd'hui on en a peu, on se prépare. Contrairement à la première vague, on a le temps de se préparer. Et donc il faudra que l'on puisse accueillir d'autres patients, nous le ferons, nous y préparons, et que l'on continue surtout à continuer de prendre en charge les autres patients. On n'arrêtera pas toute l'activité programmée comme on l'a fait au mois de mars dernier, ça c'est pas possible. Donc il faut qu'on s'organise et nous sommes en train de le faire très activement. Donc les soignants, bien entendu, comprendraient mal que les Français ne fassent pas le maximum pour limiter la circulation du virus. C'est éprouvant, la première vague a quand même été très éprouvante pour le personnel soignant. On a apprécié de voir les Français nous applaudir tous les soirs à 20h à leur balcon. Il faut que maintenant les Français comprennent, nous aident, même si c'est pas facile. C'est vrai que le masque, c'est pas agréable de le porter toute la journée. Mais vraiment, quand on est dans les situations que j'ai décrites plus haut, en lieu clos et nombreux, il faut vraiment faire attention.
C'est ça, la
responsabilité. S'isoler si on a le moindre symptôme. S'isoler, attendre le résultat du test. Responsabilité individuelle, il faut vraiment que les gens comprennent, se responsabilisent, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Et prioriser les tests, là encore, c'est important, ne pas aller se faire tester pour le plaisir, parce qu'aujourd'hui, ces laboratoires sont pris d'assaut. Rémi Salomon, merci de votre éclairage ce soir. Président de la commission médicale de la PHP, l'hôpital est prêt et aussi à recevoir tous les autres patients. Et vous nous rassurez, chef de service à l'hôpital Necker.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À suivre le débat des grandes voix, même le week-end, Gérald Darmanin va-t-il faciliter le travail de la police ? On en parle à l'occasion de cette journée de manifestation des Gilets jaunes. Les élus verts sont-ils les meilleurs ennemis de la cause écolo ? Sur ces débats, sur ces sujets, on attend les analyses croisées ce soir de Laetitia Krupa, François Claus et Philippe Moreau-Chevrolet.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
18h30, c'est l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Sophie Tussaud.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous. Le retour des Gilets jaunes dans la rue, faible mobilisation et quelques tensions à Paris, notamment près de la place Wagram, dans le 17e arrondissement, où des affrontements ont éclaté tout l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. 256 personnes ont été interpellées et 134 placées en garde à vue. Autre manifestation aujourd'hui à Paris, celle du petit collectif Famille Unie, qui réclame le rapatriement des enfants français de djihadistes détenus en Syrie. En parallèle de cette manifestation, des dizaines de parlementaires ont demandé dans une tribune publiée dans les colonnes du Parisien que ces enfants et leurs mères puissent rentrer en France. Jean Castex, testé une deuxième fois négatif au Covid. Le Premier ministre placé à l'isolement après avoir été en contact avec le président du Tour de France. Lui, positif, devait être à nouveau testé aujourd'hui. La mise en garde d'Ankara à Paris alors que la tension monte sur le conflit entre la Grèce et la Turquie. Le président Erdogan avertit Emmanuel Macron de ne pas chercher querelle à la Turquie. Et puis les obsèques d'Annie Cordy à Cannes, beaucoup de personnalités du spectacle comme Dave, Michel Thor ou encore Roland Magdam et également de nombreux anonymes. La chanteuse et comédienne belge est décédée la semaine dernière à l'âge de 92 ans après un malaise chez elle à Valoris.
À tout à l'heure, 19h pour le journal Sophie Tussaud. Valérie Darmon, alors on va reparler de ce pic de chaleur quasiment à la mi-septembre. C'est pour demain Valérie ?
Tout à fait, et lundi, et même jusqu'à mardi sur l'ouest, et au moins mercredi sur l'est. On sera au seuil de canicule. On ne parle pas de canicule parce que l'épisode n'est pas assez long dans le temps. Ce dimanche et lundi, les températures vont donc dépasser les moyennes de saison de 8 à 12 degrés en journée, 6 degrés les nuits. Pour la journée de lundi, on pourrait battre des records pour un mois de septembre. La nuit aussi, il fera donc de plus en plus doux avec probablement des valeurs proches des records dans la nuit, cette fois de lundi à mardi. On peut même parler de nuit tropicale, durant lesquelles les températures ne vont pas descendre sous la barre des 20 degrés. Donc sous un soleil de plomb sur l'ensemble du pays en ce dimanche, les maximales oscilleront entre 22 à Dunkerque et 36 à Mont-de-Marsan.
Merci Valérie.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
Jusqu'à 19h, c'est toute l'actualité en débat sur Europe 1. Laetitia Krupa, François Claus, Philippe Moreau-Chevrolet nous rejoignent pour le débat des grandes voix.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Elles sont là, les grandes voix d'Europe 1. C'est chaque samedi, chaque dimanche, 18h30, 19h sur Europe 1. Ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique, François Claus, grand reporter et rédacteur en chef sur Europe 1. Philippe Moreau-Chevrolet, spécialiste en communication politique et président de MCBG Conseil. Ce samedi qui devait sonner le retour de la mobilisation pour des milliers de gilets jaunes face à quelques manifestations interdites, les forces de l'ordre encadrées par une nouvelle stratégie. On parlera de ce maintien de l'ordre version Gérald Darmanin. Est-il de nature à apaiser les relations entre la police et les manifestants. Au cœur du débat, encore sur Europe 1, les idées polémiques des maires écolos. De Bordeaux à Lyon, sont-ils les meilleurs ennemis de leur cause? Et puis la politique sanitaire du gouvernement, on l'évoquait il y a un instant avec Rémi Salomon, un conseil de défense, une allocution du Premier ministre depuis l'Élysée. Tout ça pour ça, mais pourquoi? François Claus, Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir à tous
bonsoir.
Les trois.
Bonsoir.
Alors, vous l'avez compris, l'actualité est dense, mais je ne résiste pas au plaisir de vous donner la parole chacun. Vous avez choisi, comme chaque semaine, coup de cœur, coup de griffe, coup de gueule, coup de blues. Et j'ai envie de commencer avec vous, Philippe Moreau-Chevrolet, et votre coup de cœur ce soir, Philippe ?
Oui, un coup de cœur pour Stanislas Guérini, le patron de La République En Marche, qui a eu une déclaration aujourd'hui en disant « Avec le recul, on aurait dû dire que nous n'avions pas assez de masques et que c'était la raison pour laquelle il fallait les réserver à ceux qui étaient en première ligne. C'est la première fois qu'on a une reconnaissance officielle qu'effectivement sur les masques il y a eu un mensonge, en tout cas une dissimulation de la vérité, et qu'on pourrait éventuellement repartir sur des bonnes bases. C'est quelque chose qui est nouveau et qui est intéressant parce qu'on peut construire de la confiance, on peut construire quelque chose qu'à partir du moment où on reconnaît ses erreurs. Donc c'est à noter, c'est courageux de sa part, c'est bien qu'il l'ait fait. D'autant que ça s'inscrit dans un contexte qui est quand même très difficile où on voit qu'il y a une partie des Français qui ne comprend plus vraiment la politique sanitaire. La transparence pour moi c'est la première valeur, et puis la deuxième valeur qui est pour le coup c'est moins un coup de cœur qu'un coup de griffe, c'est l'exemplarité. Et là-dessus cette semaine on a eu pas mal de problèmes puisqu'on a vu que Jean Castex annonçait un petit peu à la cantonade qu'il était qu'à contact avec un François Bayrou qui à 69 ans ne met pas de masque en milieu clos. Et un président de la République qui se fait reprendre par les écoliers en Corse, ce qui était assez drôle. Et une petite fille qui lui a dit « Mais vous ne devez pas enlever votre masque quand vous toussez et surtout pas le donner à quelqu'un d'autre ». Donc c'était assez marrant de voir que les enfants apprenaient la discipline sanitaire au président.
C'est vrai qu'il y a eu une série de ratés, en tout cas de paradoxes. Jean Castex qui est bien négatif, on l'a appris ce soir, Philippe Moreau-Chevrolet, qui est de nature peut-être à rassurer ou à vous rassurer sur François Bayrou. François Claus, c'est un roman que vous voulez mettre à la une ce soir et partager avec les auditeurs.
Oui, un vrai grand coup de cœur, un roman de la rentrée, l'un parmi les 513 titres qui sont sortis en cette rentrée littéraire 2020. C'est un grand roman politique, mais je ne vais pas vous parler de celui écrit par Sarkozy, par Juppé, par Taubira, ni par Jospin. Non, c'est une grande écrivaine, elle s'appelle Alice Zeniter. Elle avait écrit il y a 4 ans le grand roman des relations franco-algériennes qui s'appelait L'art de perdre, et elle revient avec ce titre assez mystérieux, comme un empire dans un empire. C'est une citation tirée de Spinoza. C'est un grand livre politique, disais-je, où il est question d'une rencontre improbable entre une jeune hackeuse en mal-être et un jeune assistant parlementaire d'un député socialiste. Ça nous parle de notre monde, ça nous parle des gilets jaunes, ça nous parle de la manière de vouloir ou de pouvoir changer ce monde. C'est absolument magnifiquement écrit et je ne résiste pas au plaisir de vous en lire 3 lignes très rapidement. Lorsque le député explique à son assistant parlementaire ce que sont les rouages de la communication, je dis à un journaliste, c'est plus compliqué que ça, j'ai l'air d'un technocrate. Je lui suggère qu'il faudrait poser d'autres questions. J'ai l'air de lui dicter sa ligne éditoriale. Si je tente de développer malgré tout un raisonnement jusqu'au bout, j'ai l'air de refuser de répondre aux questions suivantes. De toute manière, aucune émission ne dure suffisamment longtemps pour qu'on puisse y faire preuve d'intelligence. Il s'agit simplement d'occuper l'espace, de montrer qu'on est là. Fin de citation. J'ai envie de dire que dans les grandes voix, très immodestement, si avec un petit peu de temps, on pouvait glisser un tout petit peu d'intelligence.
Bah écoutez, je vous l'assure, sur un plateau, ça vous fait réagir, ça. Hein, Philippe Moreau-Chevrolet et les
Publié Copa, chez Flammarion, hein. Comme un empire dans un
empire. Oui, alors sur la communication, en fait, on a constaté qu'il y a quelques années, on va dire quelques décennies, le temps de parole moyen d'un homme politique, c'était 3 minutes dans les médias. Oui. Aujourd'hui, c'est plus 30 secondes. Il faut arriver à concentrer sa pensée et à dire des choses intelligentes en 30 secondes. Mais ce n'est pas forcément que le problème du média. Il y a aussi le problème du politique. Il faut arriver à articuler des messages, à prendre des risques, peut-être davantage. Et puis aujourd'hui, les réseaux sociaux offrent quand même la possibilité de prendre le temps, d'avoir des propos intelligents. Et il y a des formidables échos pour toutes les émissions qui prennent le temps justement d'expliquer, y compris d'ailleurs des émissions politiques. Sur les réseaux sociaux, donc chaque média est complémentaire.
Et ben voilà, vous l'êtes aussi dans ces grandes voies. Laetitia Krupa, vous voyez, on parle de médias, de communication, de médiatisation s'il en est. Vous avez regardé une bonne partie de la journée les chaînes d'info continue. Ça vous a frappé, Laetitia ?
Je n'ai fait que ça, Wendy, et j'oscille entre le coup de menton.
Faut pas le faire tous les samedis, faut vous reposer, faut respirer aussi.
Non, je vous assure, mon coup, c'est une question. Est-ce que c'est justifié de consacrer une journée d'antenne sur 3 chaînes d'information, car France Info TV est un peu plus pluraliste que les autres, aux manifestations des Gilets jaunes. Et je rajouterais aux manifestations parisiennes, parce qu'il y a eu des cortèges, on le sait, en région, mais très peu couverts, en tout cas en termes de minutes d'antenne, rien à voir avec Paris, les 2 manifestations qui ont donc été couvertes toute la journée, du matin jusqu'à là, très peu, quelques minutes, par les chaînes d'info en continu. Il y a bien sûr un élément de réponse dans ma question, parce que forcément, si 3 chaînes d'info consacrent ce temps d'antenne, ça veut dire qu'il y a bien une raison. Donc j'aimerais connaître cette raison, au nom de l'information. Et il y a une autre question qui vient immédiatement. À partir de quand un média ou les médias construisent une réalité ? Puisque les Gilets jaunes, on le sait, fonctionne et le succès des Gilets jaunes fonctionne à l'image. Or là, une journée d'antenne, plusieurs heures d'antenne sur 3 chaînes d'information données à un mouvement qui existe, mais qui factuellement est grossi à part cette loupe médiatique, crée une distorsion dans la réalité sociologique, dans la réalité de l'actualité française.
Ah, très clairement, très faible mobilisation aujourd'hui, une voiture incendiée, mais en effet, c'était les titres en boucle. François Claus, j'imagine que vous avez réagi.
J'ai vécu le même sentiment que Laetitia. J'ai été fasciné par cette espèce de spectacle. Je me suis demandé à un moment si ce n'était pas de la télé-réalité, si on n'était pas dans un espèce de jeu à se dire, tiens, ils vont attaquer là à droite, ou là, attention, ils vont attaquer à gauche, comme s'il y avait un intérêt à attendre et à susciter chez le téléspectateur ce moment un peu pervers de « il va se passer quelque chose ». Non, allez, faisons de l'info, revenons au calme. Peut-être que ça montre finalement avec la faible mobilisation et avec cette délirante couverture que ce qui se jouait l'hiver, oui, c'était beaucoup, beaucoup autour de l'image, même s'il ne faut pas pour autant renier la réalité sociale de ce pays et la difficulté de l'exprimer par les moyens classiques. Et ça, c'est un autre débat.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Et on va y venir à ce débat, la tension sociale, le climat aussi entre policiers et citoyens, cette doctrine du maintien de l'ordre version Gérald Darmanin, le poids des images. Vous l'avez bien eu, on entendait même Jean-Marie Bégard tout à l'heure, ce fut justement l'image de la journée. Mais on revient sur le fond avec Laetitia Krupa, François Clos et Philippe Moreau-Chevrolet. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, les grandes voix.
Jusqu'à 19h, le débat des grandes voix d'Europe 1, Laetitia Krupa, François Clos, Philippe Moreau, Chevrolet. En ce jour de mobilisation, nouvelle mobilisation faible des Gilets jaunes, il y a un discours qui retient notre importance aussi, c'est celui du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui ne sera donc pas celui qui interdira le tir LBD. En revanche, il a choisi d'encadrer la pratique et nomme des superviseurs qui analyseront la situation. Est-ce que cette police encadrée, surveillée, graduée est celle qu'on attend dans une république comme la nôtre, Laetitia ?
En tout cas, il y a une certaine partie de la population, oui. Si vous voulez, moi, quand j'écoute Gérald Darmanin et quand je lis ses tweets, dernier tweet à 16h, soutien aux forces de l'ordre qui sont en train d'interpeller les fauteurs de troubles violents. L'ordre républicain doit s'imposer. C'est de la communication à l'ancienne. C'est poncif sur poncif. On voit exactement à qui Gérald Darmanin s'adresse. Il s'adresse à la droite avec le bouc émissaire désigné les casseurs.
Il y a tous les petits commerçants qui tremblent,
tout à fait d'accord, mais il n'y a pas de débat. Oui. Simplement, le ministre de l'Intérieur ne doit pas oublier que consolider sa base, c'est bien, sa base électorale, ok, mais convaincre les indécis, c'est mieux. Voilà. Il me semble que cette communication n'est pas inclusive, pour reprendre un terme à la mode, et que là, Gérald Darmanin est beaucoup trop caricatural.
Philippe Moreau-Chevrolet, vous êtes aussi sévère avec ces policiers qui ne seront plus cagoulés, mais dont les visages doivent être floutés, notamment sur les vidéos lors des interpellations, pour préserver aussi leur intégrité.
Alors ça c'est encore en débat quand même, parce que c'est une mesure qui risque d'être retoquée à la fois par le Conseil constitutionnel, si jamais il y a un recours contre ça, ou plus généralement devant la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne pense pas que ce soit une mesure tellement possible de flouter les visages des policiers. Je ne pense pas que ce soit tenable non plus d'ailleurs. En pratique, si c'est diffusé sur les réseaux sociaux, ce sera virtuellement incontrôlable. Donc je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'autre chose. Évidemment, il drague la droite. Là, je suis d'accord avec Laetitia, c'est une évidence, il est là pour ça, pour draguer la droite, pour faire pièce et empêcher la montée d'un éventuel adversaire en prévision de 2022, pour préparer aussi un petit peu les régionales qui vont arriver. En revanche, il a une tâche quand même qui est indispensable. Et ce qui explique ces coups de menton, c'est que l'effet des gilets jaunes sur l'opinion quant à la capacité du gouvernement à maintenir l'ordre, à Paris, sur les Champs-Élysées, qui est quand même notre avenue la plus célèbre, cette capacité a été, on va dire, rendue à peu près nulle en termes d'image. On a l'impression que le gouvernement n'a pas du tout arrivé à sécuriser les Champs-Élysées. On a l'impression que les Champs-Élysées, depuis quelques années maintenant, sont devenus un espace où tout peut arriver. On a des courses de trottinettes qui se passent le week-end.
Rodéo, oui.
Et il a fallu que, pour mettre un terme à cette course de trottinettes rodéo, il a fallu que les constructeurs de trottinettes brident les trottinettes, mais on n'arrivait pas à les empêcher, ces courses rodéo. Donc,
c'est grave. En termes de restauration de l'autorité, c'est vrai qu'il y a mieux. Oui,
oui, c'est ça. Non, en fait, ça donne on a l'impression que les Champs-Élysées sont devenus ce qu'on appelle à droite, c'est un poncif, une zone de non-droit. Donc c'est évidemment un problème en termes d'image. Et lui, Darmanin, essaye de restaurer ça par le verbe. Alors ce qu'il faudrait, c'est qu'on le voit dans les faits. Et ça, ce serait le mieux. C'est-à-dire qu'on a toujours une tradition en France assez forte de maintien de l'ordre public. On sait faire en théorie. Et c'est vrai que depuis 3 ans, on a l'impression que c'est moins le cas, qu'on a un petit peu perdu ce savoir-faire. Donc est-ce que Darmanin va réussir à restaurer ça, je ne sais pas, mais en tout cas, il a cette mission-là de la part du chef de l'État, c'est certain.
François Clos,
Moi, je suis quand même assez satisfait qu'on en arrive à un vrai débat et qu'on parle d'un schéma national de maintien de l'ordre. On n'est plus à parler d'ensauvagement sur un tweet, on n'est plus seulement à parler de j'étouffe quand j'entends violence policière. Il y a eu très clairement chez Darmanin une première phase qui était mise en place de son système. On ne s'est pas occupé s'occuper de vous, mon prédécesseur vous a laissé tomber, moi je suis là à vos côtés. Maintenant on entre dans la technique, comment garder un cortège à distance, comment maintenir le droit de manifester en France, comment participer à un usage graduel de la force, et le dispositif qui a été présenté et qu'on va voir se mettre en place progressivement, on entre là dans le vrai débat, celui d'un état de droit qui a besoin d'une police qui fait respecter l'ordre sans aller au-delà. Mon grand regret, c'est que il n'y a pas eu le mea culpa sur les LBD. Tous les confrères, j'ai pas couvert moi de manifestations directes du Gilet jaune, mais j'ai rencontré des confrères avec qui j'ai été sur des terrains de guerre, en Libye, en Syrie, au Liban, et qui m'ont dit, mais tu ne peux pas imaginer que ce LBD, c'est une véritable, et là j'emploie le mot, une citation, c'est une véritable saloperie. Alors certes, on va encadrer l'usage de ce LBD là aujourd'hui, avec quasiment un superviseur par tireur, mais j'aurais préféré qu'on aille un petit peu plus loin dans cette mesure.
Oui. Après, mais ça
je
veut
trouve
dire,
ça,
ouais.
C'est bien qu'on arrive à un vrai débat sur maintenir la sécurité. L'objectif serait qu'on revienne quand même à ce moment de grâce lorsque les policiers étaient applaudis place de la République en France et qui était une vraie leçon républicaine à
bien
ce moment-là.
Bien sûr, et ça on est d'accord et on l'espère ensemble. Mais conserver quand même l'usage des LBD, c'est montrer qu'on ne désarme pas du côté de Darmanin la police, justement.
Mais oui, parce que en fait, l'enjeu de Gérald Darmanin, c'est de s'adresser bien sûr à la population, comme vous le demandiez au début de cette discussion, mais c'est aussi de rassurer les policiers. Enfin, il y a une crise de confiance, certes, avec les Français, mais aussi dans ces Français, avec ce corps constitué par la police. Vous avez vu qu'entre le politique et les policiers, le débat, le dialogue était rompu. Donc bien sûr que Gérald Darmanin doit absolument renouer le lien de confiance d'abord avec les policiers, il me semble, et ensuite avec le reste de la population.
On se retrouve dans un instant.
Wendy Bouchard.
Merci de vos propos croisés sur ce sujet. Je voudrais qu'on évoque encore, on a une dizaine de petites minutes ensemble, la posture des Verts et des élus Verts. Vous avez peut-être entendu ce matin au micro de Pierre de Villeneuve, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux. On parlera de Grégory Doucet aussi. Ces élus Verts qui parfois jouent, on a le sentiment, contre leur propre camp. 18h51, on se retrouve dans un instant.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Jusqu'à 19h, nous sommes en présence et en compagnie de Laetitia Krupa, journaliste politique, de François Claus, grande voix d'Europe 1, reporter, rédacteur en chef, Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication politique. Et justement, j'aimerais qu'on s'arrête à la fois sur des prises de position, des discours, mais aussi sur le fond, peut-être justement, du problème ou de la réalité. Ce sont les différentes déclarations des élus verts de Bordeaux à Lyon, certains tensant le Tour de France, machistes et pourtant si populaire, le sapin de Noël coupé qui n'aurait plus lieu d'être. C'est Xavier Bertrand qui réagissait à ces propositions. Appelez-moi vieux monde si vous voulez, mais toutes ces traditions qui nous unissent seront toujours le ciment d'une société. Philippe Moreau-Chevrolet, comment il faut comprendre pour vous d'abord ces sorties et en cascade de ces élus?
Alors pour moi, il y a deux choses. Ces élus, ils ont été élus, c'est-à-dire que leurs électeurs, à la base, savent, connaissent leur prise de position. Et les ont élus peut-être aussi pour ça. Donc peut-être qu'il y a un changement dans les attentes de la sociologie et dans la sociologie des électeurs des grandes villes ou des grandes agglomérations. Et peut-être que la remise en cause de choses qui paraissaient acquises fait partie de leurs attentes. Il ne faut pas oublier qu'ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils ont été élus. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils prennent ces positions. Donc il y a peut-être un changement aussi du clivage droite-gauche qui s'oriente peut-être sur des bases différentes, et c'est assez fascinant, et on peut être atterré aussi évidemment de voir Xavier Bertrand et un élu écolo s'écharper sur le sujet du sapin de Noël. Est-ce qu'on doit tolérer d'avoir un arbre mort comme symbole de Noël, ou est-ce que ça fait partie de nos traditions?
Un arbre mort, symbole de
profonde.
La vie, c'est là où toute la complexité.
C'est ça.
Dans le débat.
Symbole de la vie, oui. Alors c'est un vrai débat, parce qu'en même temps c'est un symbole païen. Enfin bref, on va pas rentrer là-dedans, mais je veux dire c'est peut-être une réactualisation du clivage droite-gauche sur d'autres bases. On sait aussi que, par exemple, l'opposition à la 5G n'est pas totalement infondée d'un point de vue écologiste. C'est-à-dire que ça consomme vraiment beaucoup d'énergie et ça peut être vraiment un problème de ce point de vue-là. Ça recoupe pour moi avec le complotisme en partie, et c'est là que je trouve que ces nouveaux écolos sont intéressants, c'est qu'ils vont aller draguer aussi un électorat qui est potentiellement de gauche, mais en partie aussi un peu complotiste. Et on voit Rubirola à Marseille qui va draguée très clairement hein, du côté de Didier Raoult. Donc c'est une recomposition politique qui est très intéressante et qu'il faut suivre de près.
Alors on va vous entendre Laetitia Krupa et François Claus sur le sujet. Il y en a une qui est plus sévère que vous à l'instant, Philippe Moreau-Chevrolet, c'est Isabelle Saporta, journaliste spécialisée dans l'environnement et à la ville, même s'ils se disent très libres de leurs pensées, la compagne de Yannick Jadot, le patron des Verts. Écoutez.
Le droit des arbres, parfait, mais dans ces cas-là, qui se battent pour les forêts françaises, qui sont dans un état lamentable et qui sont hyper mal gérées, mais qu'on arrête de faire chier, pardonne-moi d'être grossière, les Français, avec des idées à la con et une par jour. Parce que là, on voudrait passer pour des ayatollahs, on ferait pas autre chose. Je considère qu'ils sont caricaturaux.
Et elle ne mâche pas ses mots. Bon, il faut dire qu'elle est au grand gueule d'RMC. C'est pas tout à fait le même ton, François Claus, qu'on emploie ici, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire
ce débat, là, je trouve ça assez. On est au niveau du caniveau, là. Enfin, c'est pas. Si vous voulez, Michel Rubirola, à Marseille, certes, il y a eu cette conférence avec Raoult, mais elle a aussi ouvert le port aux bateaux des migrants. Elle a été la seule à le faire politiquement à ce moment-là, qui était bloquée en Méditerranée. C'était aussi là une prise de posture très forte. Mmh. Ils ont besoin d'exister politiquement, on en revient peut-être à mon introduction au livre, ils ont besoin de faire un pitch à un moment donné pour exister politiquement. Donc ce qui va être intéressant, comme le disait Philippe, c'est de voir la recomposition politique que ça va intégrer. Parce que pour moi, finalement, là je vais peut-être choquer, mais les écologistes ne sont pas peut-être une force politique durable. Ils auront gagné lorsqu'il y aura du vert partout. En voyant par exemple qu'à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, chaque député va avoir un logiciel qui va lui permettre de déterminer la mesure qu'il vote, quel coût elle a en termes d'émissions de gaz, de CO2, si je n'apprends pas combien j'économise. Cette réflexion-là, qui est menée par un homme comme Pascal Canfin au niveau européen, où de nombreuses décisions écologiques vont se prendre, c'est là que va se jouer le débat sur l'indispensable verdissement de la vie politique française. Qu'ils aillent aujourd'hui, avec des pitchs plus ou moins douteux, investir le champ politique, on va dire, allez, c'est de bonne ou mauvaise guerre, mais attendons au moins le bilan de leur gestion. Je me souviens que le maire de Grenoble s'était déjà élevé, Éric Piolle, contre le Tour de France lorsqu'il a été élu la première fois. Puis finalement, il y a eu une négociation avec Prud'homme. Il y a eu le moyen de faire finalement une ville-étape plus propre, plus claire. Ça va se jouer dans les mois et les années à venir. Donnons-leur encore un petit peu de temps.
C'est ça, sur le durable. Mais qu'est-ce que ça veut dire alors ces prises de position? C'est stratégique, Laetitia?
Alors, je propose une piste. Mmh. Je ne dis pas que c'est la bonne, d'analyse. C'est certains spécialistes, politologues de ce mouvement, qui parlent de stratégie de rupture, c'est-à-dire que c'est volontaire, ça s'appelle aussi l'agit-prop, c'est-à-dire que la stratégie consiste à faire des propositions choc, à marquer les esprits pour alerter les consciences, quelle que soit finalement la nature de la proposition.
Et le degré d'importance.
L'idée, c'est de effectivement faire un électrochoc dans le débat public pour que tout le monde en parle et effectivement occuper ce terrain médiatique. C'est réussi. C'est aussi un positionnement politique. François l'a évoqué à l'instant. Effectivement, face à LR et LREM, qui constituent finalement dans l'inconscient collectif le pouvoir actuel, il se positionne comme une force d'opposition. Regardez, toutes les réactions sont venues du camp du pouvoir et sont venues de la droite pour attaquer ces écologistes qui auraient des propositions complètement farfelues. Mais c'est risqué, cette stratégie. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, pour la base qui est hyper idéologisée, ça fonctionne. Mais pour tous les Français qui, eux, prennent ces mesures comme ça, peut-être au premier degré, puisque pourquoi pas ? Je veux dire, c'est des mesures qui sont normalement, qui vont être concrètes. C'est risqué parce que ça peut jouer et être contre-productif pour les Verts.
Merci Laetitia Krupa, ça passe trop vite ce débat des grandes voix. Mais heureusement, vous revenez demain 18h30. Laetitia Krupa, Philippe Moreau-Chevrolet, François Claus, merci de vos analyses et d'élever ce débat justement sur Europe 1 chaque week-end. Merci à vous trois.
Europe Soir Weekend,
Wendy Bouchard.
Eh bien, ravi de vous retrouver pour une nouvelle heure d'information jusqu'à 20h sur Europe 1. Avec, elle nous rejoint pour le journal, Sophie Tussaud. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Il est tout juste 19h au carillon d'Europe 1. Merci de votre écoute et de votre fidélité.
Se servir de la crise sanitaire pour essayer de faire taire une contestation sociale, c'est terrible.
Les gilets jaunes de retour dans la rue après une longue pause, des manifestants bien décidés à faire entendre leur voix malgré la crise sanitaire.
Un week-end de tractations à Marseille, à Bordeaux, en Guadeloupe également. Le Premier ministre a demandé au préfet de ces localités de lui présenter des mesures d'ici lundi pour lutter contre l'accélération de l'épidémie de coronavirus.
À la colère des chasseurs, ils se sentent lâchés par le gouvernement. Ils ont manifesté aujourd'hui dans le fief de Jean Castex pour dénoncer l'interdiction de la chasse à la glu et faire part de leur idée de la ruralité.
Et puis la distanciation physique, on a eu du mal au départ à l'appliquer. Hein. Mais pourtant, elle est innée et naturelle, vous l'entendrez, chez les animaux qui savent se protéger des virus. On vous dévoile tout ça à la fin de ce journal. On est ensemble jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ce samedi 12 septembre, c'était la rentrée en quelque sorte des gilets jaunes. Après de longs mois de pause, ils sont à nouveau descendus dans la rue aujourd'hui.
À Paris, plusieurs rassemblements près de la place de la Bourse, dans le centre de la capitale et de la place Wagram dans l'ouest. Deux cortèges qui se sont rejoints. Mathieu Bock, vous avez suivi la manifestation pour Europe 1. La mobilisation était plus faible qu'attendue. En revanche, beaucoup de tensions et des affrontements tout le long du parcours.
Et oui, faible mobilisation entre 2000 et 3000 manifestants dans les rues de Paris. On a vu les figures de proue du mouvement, comme Jérôme Rodriguez, félicité par les manifestants tout au long du cortège. Ce matin, l'humoriste Jean-Marie Bigard, qui a soutenu le mouvement, mais qui s'est désolidarisé cette semaine de Jérôme Rodriguez, a dû se réfugier dans un café, puis s'est fait exfiltrer après avoir été copieusement insulté et menacé par des gilets jaunes. Le cortège s'est lancé en début d'après-midi, et immédiatement, des heurts ont opposé les manifestants aux forces de l'ordre. Des poubelles, du mobilier urbain et une voiture ont été brûlées. Tout au long du parcours, des affrontements ont éclaté. Les manifestants ont érigé des barricades avec des barrières de chantier. Les CRS et les gendarmes mobiles ont tiré à plusieurs reprises des grenades lacrymogènes afin de disperser la foule. En tout, les forces de l'ordre ont interpellé 256 personnes et 134 ont été placées en garde à vue cet après-midi.
Merci Mathieu Bock qui a suivi la manifestation parisienne.
Il était avec nous à 18h10, Jean-Marie Bigard, qui considère, même s'il a eu peur, que cela ne change rien à sa motivation de se lancer dans la course à la présidentielle. Vous pouvez le réécouter sur europe1.fr.
Alors, quelle suite à présent à donner au mouvement des gilets jaunes? Les manifestants présents dans le cortège ont bien l'intention de continuer à descendre dans la rue.
Bertrand, par exemple, est gilet jaune de la première heure. Et bien pour lui, l'épidémie de coronavirus n'a pas entaché la détermination des manifestants.
Ce qui est terrible, c'est que se servir de la crise sanitaire pour essayer de faire taire une contestation sociale qui malheureusement va exister, va arriver parce que la crise, elle est là. Le gouvernement se sert de la crise sanitaire pour un petit peu asseoir pas mal de lois, d'ailleurs liberticides aussi au passage, hein, tranquillement. Ben, en fait, il faut le faire tout le temps. La lutte des classes, c'est tout le temps. Donc en fait, ce qui était intéressant dans le mouvement des gilets jaunes, c'est que bon, il est arrivé un moment où on ne l'attendait pas. Donc c'est un peu comme ça que démarrent d'ailleurs un peu tous les mouvements sociaux, les révolutions. On n'attend pas vraiment le truc. Et puis après, je pense qu'eux-mêmes ont joué quand même le jeu. C'est-à-dire que quand on dit le peuple français a été pas du tout discipliné, etc. Et tout le monde a joué le jeu. On est rentré dans nos appartements, dans nos maisons, de façon assez docile. Assez rapidement, on a quand même remis des gens au boulot, hein, parce qu'il fallait que l'économie fonctionne. Et donc, les gilets jaunes, ce sont ceux-là aussi.
Bertrand, gilets jaunes au micro, Europe 1 de Mathieu Bock. D'autres manifestations de gilets jaunes ont eu lieu aujourd'hui dans des grandes villes comme Marseille, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. Des défilés qui se sont globalement déroulés dans le calme.
La situation continue de se dégrader et là, sur le front de l'épidémie, plus de 9400 cas de contamination, 40 décès enregistrés en 24 heures, ce qui fait beaucoup d'inquiétude dans certaines villes ou départements, Sophie.
Et Jean Castex a demandé au préfet de Marseille, Bordeaux et de Guadeloupe, où la situation est préoccupante, de lui présenter de nouvelles mesures d'ici lundi. Tout ce week-end se déroule des tractations entre maires, préfets et commerçants. Écoutez d'abord Frédéric Jean-Jean de l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration à Marseille.
Avec ce qui nous est arrivé, nous restons prudents. Nous sommes soulagés de savoir que les mesures vont être prises par département et en concertation avec les acteurs sur le terrain. Et nous attendons d'ailleurs l'appel de la préfecture.
Je suis rassuré qu'on va échapper au moins au confinement.
Ah oui, on est satisfait. S'ils vont nous confiner encore, c'est la mort. Hein. Déjà, on n'arrive pas à tenir. Je vois les bars, les restaurants. Dans mon quartier, à 8h, il n'y a plus personne.
Moi, j'habite à la Belle de Mai. Ce matin, j'ai constaté que beaucoup de gens n'ont pas le masque dans la rue. Moi, je fais l'effort de le mettre. Ça m'énerve. Le problème, c'est que quand on est sévère, il y a des gens qui gueulent.
Des témoignages recueillis par Stéphane Frangy à Marseille.
Jean Castex qui sort de l'isolement une semaine après avoir été en contact avec le patron du Tour de France positif au Covid. Eh bien, le Premier ministre a été testé une deuxième fois négatif. Les Français aux urnes dans deux semaines, élection sénatoriale dimanche 27 septembre. On connaît le nombre de candidats. Ils seront 1449 à briguer les 172 sièges qui doivent être renouvelés pour 6 ans. La majorité au Sénat est actuellement tenue par la droite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
On revient dans une petite minute avec Sophie Tussaud pour vous parler de la colère des chasseurs contre l'interdiction de la chasse à la glu et les animaux qui pratiquent à l'instinct la distanciation physique. A tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Avec Sophie Tussaud pour vous informer, 19h07 sur Europe 1 à l'écoute du Grand Journal. Et un millier de chasseurs rassemblés aujourd'hui à Prades dans les Pyrénées-Orientales. Prades, c'est le fief du Premier ministre Jean Castex. Ils ont crié leur colère.
Oui, ils ont dénoncé l'interdiction de la chasse à la glu, mais également celle de la tourterelle des bois. Ces chasseurs qui reprochent à Jean Castex de ne pas avoir tenu sa parole. Une manifestation pacifique pour défendre la ruralité, insiste Eddy Puigellon, participant et président du Mouvement pour la ruralité.
Depuis 30 ans, on ne fait que perdre des choses, parce qu'à chaque fois, on impute une part de notre activité. Pour faire clair, le Premier ministre s'est engagé en disant « Je vous obtiendrai un quota pour permettre la chasse à la glu cette saison ». Il y avait une confiance vers ce Premier ministre qui arrive d'un monde plutôt rural, un maire d'une petite commune, et force est de constater que tout le monde s'est trompé, que sa parole, il ne l'a pas tenue. Et on a doublé la mécontentement avec l'annonce hier du Conseil d'État qui vient d'interdire la chasse des tourterelles sur le territoire national. Mais encore une fois de plus, c'est le politique qui a la main, c'est le gouvernement. C'est le ras-le-bol du monde rural en général. Nous, nous ne voulons plus assumer cette propagande malsaine qui montre du doigt l'agriculteur, le chasseur, le rural, comme si on était revenu au temps des pecnots, des bouseux. Non, nous ne sommes pas des pecnots et des bouseux, nous sommes des gens responsables, des amoureux de la nature, et nous ne méritons pas la publicité, la mauvaise publicité qui nous est faite par des gens qui vivent de la nature. Nous ne vivons pas de la nature, nous vivons dans la nature.
Eddy Puigellon, président du Mouvement pour la ruralité, répondait à Marion Gauthier.
Oui, face aux espèces à l'agonie, il leur répondra notamment sur le sort et la sauvegarde de la tourterelle des bois sur Europe 1. Demain, 19h30, le président de la Ligue de protection des oiseaux, Alain Bougrain-Dubourg. Des animaux, on reste avec eux, qui peuvent être très étonnants et à qui souvent les humains n'ont rien à apprendre, comme la distanciation physique.
Oui, c'est une pratique courante chez les animaux pour lutter contre un virus. Des chercheurs spécialistes du comportement animal, dont un Français d'ailleurs, viennent de publier une étude à ce sujet. Nombreux sont les animaux qui mettent des distances avec leurs congénères pour éviter d'être contaminés. Théo Menval vous dit tout.
Ça fait bien longtemps qu'on ne se serre plus la pince chez les homards au moindre soupçon d'infection. Geste barrière jusque dans les fonds marins. L'essentiel du groupe prend ses distances quand un individu est malade. Même chose observée chez certains primates, comme le mandrill dans des forêts d'Afrique. Pas de test PCR, mais là aussi tout se passe dans le nez, explique Cédric Sueur, chercheur au CNRS, l'un des co-auteurs de l'étude.
Ils se rendent compte que les autres individus sont malades à travers les signaux olfactifs. Au niveau des taux d'infection de différents parasites, bactéries ou des vers, on va dégager une odeur qui va être différente. Les congénères s'en rendent compte et vont éviter l'individu malade. Et au moins les pouiller du coup.
Chez le homard, c'est la couleur qui permet aux autres de repérer l'individu potentiellement contagieux. Palme du civisme à la fourmi. Les malades se mettent elles-mêmes en quarantaine et les bien portantes se réunissent en plus petits groupes. L'être humain n'a donc vraiment rien inventé, conclut Cédric Sueur, sur les rassemblements limités.
On se met souvent à l'écart du monde animal parce qu'on considère qu'on est plus intelligent, entre guillemets. Mais en fait, il faut qu'on arrive à mettre un peu d'écart notre fierté par rapport à ça et qu'on observe vraiment ce qui se passe dans la nature et qu'on s'en inspire.
Pour mieux combattre et même prévenir à l'avenir le développement d'épidémies.
Théo Manval
et Sophie Tussaud qu'on retrouve à 19h30 pour l'essentiel de l'actualité. Merci Sophie. Allez, un petit point sur le ciel, ça va vous réjouir parce qu'on est vraiment dans un regain d'été, Valérie Darmon.
Eh bien ce dimanche, le temps va rester très ensoleillé. Quelques brouillards sont toujours fréquents en matinée près des côtes de la Manche. Sur les Alpes, la Corse et les Pyrénées, vous n'êtes pas à l'abri d'une averse. Les températures sont en hausse. Les maximales afficheront 25 à 32 du nord au sud, jusqu'à 35 dans le sud-ouest, dans le Vaucluse et dans le Var. Chaleur au programme lundi et mardi aussi, avec un ciel nuageux sur la façade ouest et ensoleillé ailleurs. Le vent d'automne va se mettre à souffler dans son domaine jusqu'au soir. Vent de sud aussi sur le massif central et des pointes allant jusqu'à 80 km/h par moment dans les Pyrénées. La chaleur s'intensifie surtout sur la Nouvelle-Aquitaine, le centre, le Val-de-Loire et la Bourgogne, où le mercure pourrait atteindre 35 degrés et même 37 en Aquitaine. Ailleurs, il fera 29 à 34 degrés. Ce programme-là, c'est pour lundi et mardi.
Merci Valérie.
Les sports avec Jean-François Pérez et le foot à la une. D'abord, c'est la troisième journée de Ligue 1.
Oui,
à suite.
Un duel sudiste pour démarrer cette soirée. Montpellier recevait Nice. Romain Boselli, victoire convaincante des Montpelliérains, 3-1. Et première défaite pour Nice cette saison.
Effectivement, victoire de Montpellier et victoire logique, 3-1 des joueurs de Michel Derzakarian. Gaëtan Laborde qui a ouvert le score sur une demi-volée magnifique à la 18e, doublé ensuite du défenseur montpelliérain Daniel Congré en seconde période. Pour l'honneur, Dante a réduit la marque de la tête à la 69e pour les Niçois, mais Montpellier a bien géré la fin de match pour obtenir ce premier succès de la saison et premier coup d'arrêt pour les joueurs niçois de Patrick Vieira qui avaient gagné, on le rappelle, leurs deux premiers matchs de la saison. Mais victoire logique des Montpellier cet après-midi, 3-1 à la Mosson.
Merci Romain. Hier soir, Bordeaux et Lyon avaient fait match nul 0-0. Ce soir, 21h, Saint-Étienne-Strasbourg. C'est à vivre, bien sûr, dans notre émission, dans Europe 1 Sport.
À partir de 20h, bonsoir Lionel Rousseau.
Bonsoir Wendy.
Comme chaque week-end, c'est notre rendez-vous. Un invité exceptionnel ce soir d'abord.
Olivier Giroud sera notre invité, l'attaquant de l'équipe de France, qui ne cesse de battre des records. Bientôt 41 buts, il égalera Michel Platini. Bientôt 100 sélections, il est déjà dans le top 10 des meilleurs joueurs, en tout cas les plus capés de l'équipe de France. Et pourtant, c'est quelqu'un qui ne fait pas toujours l'unanimité parce qu'il n'est pas toujours titulaire en club. Alors évidemment, ce soir, il se livre sur la longueur. C'est un riche et long entretien, mais nous lui avons posé la question avec Jean-François Pérez sur son avenir. Va-t-il rester notamment dans son club de Chelsea ?
Oui.
La réponse.
Je suis bien à Chelsea. Ma famille s'y sent bien. J'aime beaucoup la Premier League. Je suis un joueur de Chelsea aujourd'hui et j'ai envie de gagner la Premier League avec Chelsea.
Il faudra donc compter avec Olivier Giroud encore pendant longtemps, et on en parle ce soir.
C'est bien, et puis le retour du studio des légendes, demain.
Ce sera demain, on en effectivement, parlera demain. Pour le classique Paris Saint-Germain-Marseille.
Je préfère aller chez les auditeurs, ils sont tous de toute façon. Merci, à tout à l'heure, 20h. Jean-François, l'actu du foot, c'est aussi PSG, OM et demain.
Voilà, jolie perche, elle est prise. Et des retours de prestige dans le groupe du Paris Saint-Germain après la défaite à Lens jeudi soir. Neymar, Di Maria, Navas ou encore Paredes, tous aptes après un test positif au coronavirus il y a quelques jours. Et le désormais fameux Ibiza Gate, deux forfaits à l'OM pendant ce temps. Bounassar, le latéral, et Morgan Sanson au milieu de terrain. PSG-OM demain, 21h, soirée spéciale donc dans Europe 1 Sport jusqu'à 23h30.
On passe au Tour de France, 14e étape aujourd'hui.
Et au-delà de la victoire du Danois Andersen et du maillot jaune, toujours sur les épaules du Slovène Primož Roglič, le sujet du jour c'était Romain Bardet. Le Français a été contraint à l'abandon suite à une chute hier, commotion cérébrale, on l'a appris ce matin. Question, devait-il remonter sur son vélo après cette chute ? A-t-il pris des risques pour sa santé ? La réponse de son directeur sportif, Vincent Lavenu.
Effectivement, les premiers signes, quand on voit Romain qui s'assoit à un moment donné, on peut se dire, tiens, ben, y a quelque chose qui se passe. Finalement, lui, là, ensuite, il a pris l'initiative de repartir très vite. Et tout ce qu'on a pu voir sur le vélo ne laissait pas montrer qu'il y avait des troubles. Il a appelé la voiture du médecin de la course. Donc là, à ce moment-là, je pense que l'analyse aussi du médecin était claire. C'est le protocole qui reste à être précisé. Dans beaucoup de sports, le protocole commotion existe et bien précisé. Il faut que ce soit comme ça dans le vélo aussi.
Voilà les précisions de Vincent Lavenu, le directeur sportif de l'équipe AG2R, la mondiale. Demain, 15e étape. De nouveau, la montagne avec une arrivée au Grand Colombier, un col hors tacao. J'y arrive. Un col
hors catégorie.
Voilà, merci.
Voilà, la Formule 1 pour terminer. Coup de blues ce soir. Hein.
Oui, je suis très déçu. C'est la réaction de Pierre Gasly après sa 16e place sur la grille de départ du Grand Prix de Toscane demain. Le pilote français, encore auréolé de sa victoire dimanche dernier sur le circuit de Monza, bien, il aura fort à faire pour rentrer dans les points. La pole position est pour Lewis Hamilton. La deuxième place pour Valtteri Bottas sur Mercedes. Charles Leclerc est cinquième sur sa Ferrari. Un petit résultat de top 14. Toulouse-La Rochelle, 39-23 pour les Toulousains. Et puis ce soir, finale de l'US Open. Féminine, c'est du tennis bien sûr. Naomi Osaka, la japonaise, face à la Biélorusse Victoria Azarenka.
Merci beaucoup. Coucou messieurs, et donc le sport à partir de 20h ce soir sur Europe 1. Merci.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
La rentrée sociale, on va en parler, restera-t-elle sous tutelle de la rentrée sanitaire ? C'est Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste, qui veut ce soir que le plan de relance soutienne davantage l'emploi. C'est aussi le week-end de fête de l'humanité. Il est notre invité dans un instant.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Il est 19h18 sur Europe 1 avec un samedi de mobilisation de gilets jaunes à Paris notamment et un week-end de débat dans différents points de l'Île-de-France pour la fête de l'humanité. Bonsoir Fabien Roussel.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national du Parti communiste. Les Français ont connu le chômage partiel et le vivent encore, les licenciements, l'angoisse de la fermeture de leur commerce se couperaient toujours sur nos têtes 6 mois après le confinement. Le retour des gilets jaunes dans ce contexte a-t-il un sens, Fabien Roussel ?
Oui, parce que
Les Gilets jaunes, comme ils avaient commencé à le faire en novembre 2018, qui étaient les premières occupations des ronds-points, défendent une exigence de dignité, de respect de leur dignité, de pouvoir vivre dignement. C'est le mot qui revient partout. Ils ont retrouvé la fraternité au sein des ronds-points. Aujourd'hui, ils réclament la dignité et l'égalité. Et donc, dans cette période de double crise économique et de pandémie, on voit bien que le besoin de vivre dignement, de se sentir sécurisé dans son emploi, dans son travail, est aujourd'hui au cœur des exigences, des souhaits, des angoisses des Français. Et avec tous ces plans de licenciement qui tombent, avec cette pauvreté qui augmente, parce qu'il y a les fins de mois là qui commencent à angoisser les Français, avec les factures qui augmentent, la baisse du pouvoir d'achat, eh bien oui, il faut mettre ces questions-là au cœur de cette rentrée, c'est-à-dire l'emploi et le pouvoir d'achat.
Et est-ce que le caractère historique du moment que nous vivons, de cette crise, va encourager le dialogue social, la recherche d'un nouveau monde, si je veux encore employer cette expression, entre les syndicats, le patronat, dans la recherche de solutions, oui.
Oui, bien sûr, moi j'ai confiance et j'espère, parce que le président parle d'un nouveau monde, moi j'aimerais bien parler d'un nouveau système économique, un système qui préserve la dignité humaine et l'environnement, et ce sont aujourd'hui deux exigences fortes, et donc j'espère qu'on va aussi changer de relation aussi, que l'on va pouvoir se mettre d'accord pour que l'on change nos modes de production, que chacun puisse avoir un travail, enfin quand même, il y a tellement d'exigences, de besoins dans notre société, pour faire la transition écologique, pour nos services publics, dans les hôpitaux, voyez ces gisements d'emplois. Or, nous regrettons que dans le plan de relance, il n'y ait rien qui réponde à cela. Il n'y a pas de promesses d'embauche, de relocalisation d'activités prévues. Et donc, nous craignons que l'on reste dans le même système qu'avant.
Oui, mais il y a une décélération de l'activité économique. Nous sommes tous placés pour le vivre, hélas, et de plein fouet. À ce titre-là, tous les Français sont gilets jaunes et vivent la crise également.
Mais quand il y a une baisse de l'activité économique et qu'en face, l'État met 560 milliards d'euros sur la table, oui. 460 dans le cadre du plan de soutien et 100 milliards dans le cadre du plan de relance, c'est pas une paille quand même. 560 milliards d'euros, jamais il n'y a eu autant d'argent mis sur la table. Mais c'est bien pour que cet argent aujourd'hui relocalise effectivement de l'activité. Alors que quand je m'en vais voir les producteurs de verre de Verallia, je découvre que cette entreprise, ce groupe, distribue des dividendes d'un côté et licencie de l'autre et ferme un four et demain on va importer plus de bouteilles de verre. J'entends les mêmes choses de la part des fonderies du Poitou, dont le principal client est Renault, qui va toucher 5 milliards d'euros de l'État, et on craint que Renault ne se fournisse pas en pièces auprès de cette entreprise.
Donc les relocalisations, Fabien Roussel, à vous entendre, évidemment. Mais si on prend un autre exemple que ceux que vous venez de citer, Auchan considère par exemple que le Covid a accéléré les suppressions de postes. Mais il redéfinit aussi ses métiers. Il y en aura davantage dans le digital, dans la proximité avec le drive. Est-ce qu'on peut entendre ces discours et les accompagner aussi avec...
J'ai interpellé la direction d'Auchan, là, hier, justement, parce que ça va toucher fortement ma région des Hauts-de-France avec ses 1475 suppressions d'emplois. Et je pense que, justement, dans une période de crise que nous vivons, je ne conteste pas qu'il y ait des baisses d'activité dans certains secteurs. Eh bien, et encore dans la grande surface, on peut en discuter. Oui. Mais justement, j'appelle, moi, à ce que nous trouvions des solutions ensemble, à ce que nous nous serrions les coudes pour qu'il n'y ait pas de suppression d'emplois. Et quand M. Mullier et sa famille représentent la sixième fortune de France avec 26 milliards d'euros, certes leur patrimoine a baissé, mais quand même 26 milliards d'euros, il y a peut-être les moyens là de trouver ensemble les moyens de préserver les emplois, de réduire le temps de travail, d'engager de la formation, de bénéficier de chômage partiel, plutôt que de faire des licenciements. Enfin, on rentre dans une période difficile. Pourquoi l'État met 560 milliards d'euros et pourquoi les grandes fortunes, les multinationales, eux, là, le capital, pourquoi eux ne participent pas à l'effort de redressement du pays? Alors, c'est ça que nous demandons.
Voilà ces grandes fortunes, ces grandes entreprises, l'État qui a accompagné les salariés avec le chômage partiel, qui continue. C'est un filet de sécurité que vous avez mis à l'honneur régulièrement, vous avez salué. Que faire maintenant et demain pour que ces entreprises ne vivent plus sous perfusion? Parce que c'est bien la question qui se pose.
Eh bien, il faut produire autrement les richesses de notre pays. C'est tout l'enjeu du nouveau système que nous devons faire. Produire autrement, produire sans exploiter les hommes et les femmes qui travaillent dans ces entreprises et sans épuiser l'environnement, les ressources naturelles, la biodiversité. Donc ça veut dire
des entreprises plus locales.
Mais travailler autrement dans les entreprises, quand je rencontre les salariés qui travaillent dans l'industrie avec des métiers pénibles, ils ne demandent pas à ce que leur métier n'existe plus. Ils demandent à avoir des meilleures conditions de travail. Pourquoi ne mettons pas la réduction du temps de travail à l'ordre du jour? Pourquoi ne fixons-nous pas des objectifs à Renault de relocaliser de la production automobile en France et d'ouvrir de nouvelles usines? Mais vous voyez que des exemples comme ça, il y en a tant. Et alors dans les services publics...
Et la confiance, Fabien Roussel, parce que c'est aussi le moteur... La psychologie de l'achat et de la reprise de l'activité.
Eh bien, écoutez, je pense que si le gouvernement avait dit, avec ces 500 milliards d'euros sur la table, nous allons donner un avenir à nos 700 000 jeunes en leur garantissant un emploi pendant 2 ans, 3 ans et un CDI ensuite, c'est autre chose que de leur promettre un CDD de 3 mois. Vous voyez, donner confiance, c'est de pouvoir s'engager sur le long terme. Et quand on met 560 milliards d'euros sur la table sans rien demander en plus au capital, aux grandes fortunes, et puis sans garantir un avenir à chaque Français, que ce soit dans son pouvoir d'achat ou dans son travail, eh bien c'est là où le gouvernement se trompe. Et effectivement, aujourd'hui, les Français ont peur de l'avenir. Et je voulais dire un mot sur les services publics, parce que dans nos hôpitaux, qui vont être là de nouveau en première ligne, il y a tellement d'emplois à pourvoir, ils nous le disent encore maintenant. Ils ont peur de la deuxième vague, les infirmières, les blouses blanches, justement.
Et ce parce sera, oui, notamment et... cette réforme de l'hôpital, ce soutien à l'hôpital au cœur de la grande journée de mobilisation le 17 septembre, hein, avec les retraites, avec l'assurance chômage aussi, Fabien Roussel.
Besoin d'embaucher maintenant. Et donc la réforme, c'est on veut des actes.
Merci.
On veut des embauches maintenant. Il y a 100 000 emplois à pourvoir et tant de jeunes qui cherchent du travail.
Merci Fabien Roussel. La fête de l'humanité autrement, parce qu'elle est aussi rattrapée par le Covid, mais c'est aujourd'hui et demain dans différents points de l'Île-de-France, avec demain 14h, notamment ce débat entre Philippe Martinez et Geoffroy Roux-de-Bézieux, puisqu'on parlait de dialogue social. Merci beaucoup à vous.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
À suivre le journal de l'environnement dans l'ombre des grands chefs en cuisine du flan ce soir. Et puis, mon interview au cœur de la défense du climat avec un étudiant de 21 ans qui siège auprès de l'ONU. On vous explique tout ça tout de suite.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard. Le journal de l'environnement.
Voici le journal de l'environnement, chaque samedi, chaque dimanche avec vous. Virginie Salmen, bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Et un chiffre hélas spectaculaire et effrayant, c'est vraiment le chiffre de la semaine. Les populations d'animaux sauvages qui ont chuté de 68% depuis 1970, en 50 ans. Et on parle là uniquement de vertébrés. Rapport du WWF, on en a beaucoup entendu parler cette semaine. Et vous prenez un petit peu le temps de nous parler des solutions qui existeraient pour inverser la courbe. D'abord, en aparté, quand on dit moins 68% d'espèces sauvages en moins, c'est quel type d'animaux chez nous?
Alors, par exemple, un petit oiseau qu'on a tous approché un jour, le moineau, le nombre de moineaux en France a chuté de 60% depuis les années 80. C'est un élément marquant de ce rapport parce que même des espèces communes comme ça disparaissent, ça prouve à quel point l'érosion de la biodiversité est profonde.
Et pourquoi il disparaît le moineau en l'occurrence?
Alors, il y a plusieurs facteurs, mais c'est en particulier parce qu'on construit beaucoup, trop pour les animaux sauvages. On ne leur laisse plus de place pour faire leur nid. Il y a de moins en moins, vous savez, de friches ou de trous dans les murs pour nicher. Parmi les espèces en déclin, il y a aussi le macaremoine. Vous savez, cet oiseau de bord de mer avec une tête un peu rigolote,
qui a été
noire et blanche.
À l'initiative de la création de la Ligue de protection des oiseaux,
voilà.
il y a presque 100 ans.
Avec un bec orange qu'on voit en Bretagne. Il est en danger, lui, critique d'extinction. On observe les mêmes chutes alarmantes de population pour les anguilles dans les rivières, le coucou ou bien les tortulutes en Guyane, par exemple.
Et on peut se dire, Virginie, c'est très grave que le moineau disparaisse, les anguilles, mais pourquoi le déclin de ces espèces particulière la préoccupe autant les scientifiques?
Bien, parce que l'homme fait partie de la biodiversité, il ne faut pas l'oublier, donc ce déclin a évidemment des conséquences sur nous, ça c'est à titre très égoïste. Par exemple, sur la qualité de l'eau, certains crustacés comme les moules jouent un rôle de filtration de l'eau, même chose pour les zones humides, parfois on trouve ça un peu anecdotique les zones humides, les étangs ou les mares, eh bien filtrent l'eau et nous protègent donc de maladies. Et puis si certaines espèces d'oiseaux disparaissent, ça veut dire qu'ils ne mangent plus les insectes,
bien
donc
sûr.
Plus d'insectes ravageurs dans les champs notamment, ça complique encore la tâche des agriculteurs.
Bon, on a posé ce constat alarmant. Est-ce qu'on peut l'éviter maintenant? Et surtout, est-ce que vous pouvez nous parler des solutions de conservation de certaines espèces?
Oui, alors il y a différentes façons d'agir. En France, par exemple, le lynx qui avait totalement disparu il y a 50 ans est de retour grâce à une politique de conservation. Autre exemple, on a quasiment sauvé les saumons dans la Loire. La directrice générale du WWF, Véronique Andrieux, nous explique comment.
Le saumon, il en restait à peine une petite centaine en 1980. Aujourd'hui, il en reste un peu plus de 700. Ça, c'est évidemment le fruit de batailles, par exemple sur la Loire en 1994. Il y a eu une mobilisation d'un collectif d'associations Loire Vivante qui a permis de stopper la construction de grands barrages sur la Loire à l'époque.
Véronique Andrieux, directrice générale du WWF, Virginie Salmen. On peut inverser la courbe ?
Alors, inverser la courbe, c'est précisément le nom du groupe de scientifiques et d'ONG qui propose un pack de scénarios inédits. Pour eux, la seule façon d'empêcher un effondrement des espèces animales nécessite de déployer les grands moyens. D'abord, déclarer 40% de la planète en zone protégée, mais vraiment protégée, contrôlée. Pour l'instant, on est à 15%. Diviser par deux le gaspillage alimentaire, arrêter de jeter. Et puis, diminuer de 50% notre consommation de viande, de lait et d'œufs d'ici à 2050. Un gros, gros boulot.
Voilà pourquoi on vous parle de ces gestes citoyens du quotidien qui ont un impact considérable aussi sur l'environnement et la biodiversité en général. Virginie Salmen, qu'on retrouve demain pour le Journal de l'Environnement, 19h30 sur Europe 1. Merci.
À demain.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.
Vous êtes à l'écoute d'Europe 1, le grand journal à 19h31. Et voici l'essentiel de l'info avec vous, Sophie Tussaud.
Le retour des gilets jaunes dans la rue, faible mobilisation et des tensions à Paris, notamment près de la place Wagram dans le 17e arrondissement, où des affrontements ont éclaté tout l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. 256 personnes ont été interpellées, 134 placées en garde à vue. La mise en garde d'Ankara à Paris, alors que la tension monte sur le conflit entre la Grèce et la Turquie. Le président Erdogan avertit Emmanuel Macron de ne pas chercher querelle à la Turquie. En parallèle, la Grèce annonce un important programme d'achat d'armes et une réorganisation des forces armées du pays. La Californie, toujours dévastée par les flammes, des dizaines de feux parcourent l'État américain depuis plusieurs jours. Au moins 16 personnes sont mortes. Donald Trump se rendra sur place lundi. Jean Castex, testé une deuxième fois négatif au Covid. Le Premier ministre placé à l'isolement après avoir été en contact avec le patron du Tour de France, lui, positif, devait être testé à nouveau aujourd'hui. Et puis les obsèques d'Annie Cordy à Cannes, beaucoup de personnalités, de nombreux anonymes. La chanteuse et comédienne belge est décédée la semaine dernière à l'âge de 92 ans après un malaise chez elle à Valoris.
Et prochain point d'info à 20h avec le journal Sophie Tussaud.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard, dans l'ombre des grands chefs.
Comme chaque samedi, on va retrouver côté cuisine Pierre Herbulot et une recette sucrée ce soir, s'il vous plaît, saveur d'enfance, diront certains. On cuisine du flan avec vous. Bonsoir Pierre.
Il y a des flans dans toutes les pâtisseries françaises, mais ceux qui sont aussi bons que celui qu'on va faire sont rarissimes. Bonjour Stéphane Glacier.
Bonjour.
Meilleur ouvrier de France promotion 2000, vous avez écrit un livre entier sur le flan, et là vous allez nous faire le grand classique, mais attention, vous m'avez dit, il faut dire le flan vanille.
Souvent les gens disent flan nature, quand ils achètent du flan, il n'est pas nature, puisqu'on met de la gousse de vanille, une gousse de vanille très sélectionnée, qu'on paye 600 euros le kilo, donc il n'est pas nature, il est bien à la gousse de vanille.
Alors, je précise pour les auditeurs, vous avez accepté de nous donner la recette de votre flan à la gousse de vanille, donc on va la mettre sur le site d'Europe1.fr, donc pas besoin de tout noter. En écoutant, concentrez-vous plutôt sur les détails que va donner le chef. Alors, juste pour commencer, vous avez fait chauffer du lait, de la crème, c'est ça, avec la gousse de vanille pour que
voilà,
ça infuse ?
On a porté à ébullition le lait, la crème et la gousse de vanille. On réduit le feu un petit peu, on laisse maturer pendant 5 minutes. Donc comme ça, la gousse de vanille diffuse bien son parfum.
Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a ?
De l'autre côté, on a donc nos œufs et nos jaunes d'œufs. On les fouette un petit peu, on leur ajoute le reste du sucre. Et là, on va faire ce qu'on appelle blanchir. C'est-à-dire qu'on va faire fondre le sucre dans les œufs et les jaunes. Et on va s'assurer, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais quand je mélange, on entend un peu les petits cristaux de sucre encore.
Alors on écoute. On est comment là ?
Voilà, on est pas mal, ça va pas tarder. Donc là, je viens d'ajouter l'amidon. Vous voyez, là, on n'entend plus les grains de sucre.
Non, c'est vrai. Là, on commence quand même à avoir un mélange assez homogène.
Voilà, là, c'est lisse. On va être prêt à faire la cuisson. On reporte à ébullition notre lait, notre crème et la gousse de vanille qui a infusé. On verse à peu près un tiers du liquide dans ce mélange jaune, sucre, œuf et amidon. Voilà. Et là, on va procéder à la cuisson. Donc, la partie de lait qui reste dans la casserole, il est très important que ça reboue.
Ah oui, ça s'entend.
Voilà. Pour que la crème coagule très vite de façon à ne pas avoir de grumeaux, en fait. Voilà, ça c'est très important et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas et c'est pour ça qu'ils ont des crèmes souvent qui sont un peu farineuses et qui sont moins lisses. Voilà, une fois que ça reboue bien, on verse doucement le mélange jaune, œuf, sucre et on constate que la crème coagule instantanément.
Oui, ça épaissit très vite
voilà,
en fait.
C'est ça. Et ça c'est la réussite du flan en fait. Et l'autre chose importante, beaucoup de gens pensent que quand ça bout, c'est cuit. Pas du tout.
Ah non.
Il faut tenir l'ébullition pendant 2 minutes pour cuire les amidons.
Alors, ça bout vraiment. Hein. On voit les bulles quand vous arrêtez. Voilà, ça, on voit les bulles.
Ouais, on entend bien l'ébullition, ah, oui, là, très important.
Et encore une fois, on a cette odeur de d'œuf, de vanille.
Donc ici, on verse la crème dans le moule avec la pâte feuilletée.
Donc bien chaude. Hein.
Ensuite, nous, on les laisse poser au minimum 4 heures. J'aime bien faire cette préparation la veille, les mettre au frigo la nuit et on les cuit au four le lendemain.
Ah.
Voilà. Et le tour est joué.
De toute façon, le flan, moi, c'est ma madeleine de Proust. J'adore la texture, le goût d'œuf, de vanille et puis le beurre aussi de la pâte feuilletée. Merci beaucoup, chef. Et surtout, bravo parce que votre flan, vous le vendez, en tout cas la part, à moins de 3 euros en boutique. Et ça, c'est important de le signaler. Merci beaucoup.
Le flan parisien de Stéphane Glacier, l'un des plus grands pâtissiers du monde, avec Pierre Herbulot. Photos et recettes à apprécier sur le site d'Europe1.fr.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard.
On vous parlait environnement tout à l'heure, la disparition hélas de tant d'espèces. À côté de cette réalité, il y a ceux qui se battent justement pour l'inverser. Et notre invité ce soir s'appelle Nathan Métainier. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes Nathan, étudiant, originaire de Grenoble. Bon, pour le coup, ce soir, vous êtes à Londres et sur Europe 1. Et vous avez été nommé cet été à 21 ans, conseiller climat auprès de l'ONU. Alors, vous allez nous raconter comment vous en êtes arrivé là, bien sûr. Mais d'abord, conseiller climat auprès du secrétaire général de l'ONU. En quoi consiste votre rôle et votre mission, Nathan ?
Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir un groupe avec différents activistes. Donc, on est 7 dans le monde entier, donc à la fois au Soudan, en Amérique latine, les îles Fidji, en Asie aussi, pour conseiller le secrétaire général des Nations Unies dans son action climatique, mais surtout porter les revendications de la jeunesse en le rencontrant tous les 3 mois, régulièrement, donc un vrai dialogue pour discuter aussi de la crise que nous vivons en lien avec la pandémie, de comment les États et l'ONU peuvent faire face à la pandémie tout en proposant des plans de relance qui soient verts, qui soient justes. Mmh. Et donc, c'est en notre position d'activiste qu'on a été sélectionné pour participer à cette aventure.
Ça veut dire que vous n'avez pas spécifiquement porté la voix de la France, mais la voix des jeunes avec du concret. Ce ne sera pas des comités en pagaille, hein, on espère, à l'ONU.
Non, pas du tout. On rencontrera le secrétaire général des Nations Unies directement tous les 3 mois.
D'accord.
Et puis, on travaillera, bien sûr, avec les institutions onusiennes, telles que le programme des Nations Unies, sur des propositions concrètes, sur leurs activités aussi, sur comment ils soutiennent la jeunesse, sur comment ils soutiennent l'action climatique.
Vous qui militez depuis l'âge de 15 ans, Nathan, ce qui a évidemment expliqué votre choix, vous n'avez pas été choisi par hasard pour votre sensibilité, très clairement, et de longue date, si j'ose dire, car vous avez 21 ans.
Oui, c'est, si vous voulez, demander aux décideurs politiques, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, régional, par exemple l'Union européenne, ou aussi les institutions internationales comme ce qu'on appelle les COP, hein, les conférences qui se chargent de fixer nos ambitions climatiques, de faire en sorte que les décideurs politiques prennent en compte l'urgence de la crise climatique et sociale. Et d'ailleurs, vous parlez aussi de la crise de la biodiversité qu'on vit, qui est extrêmement importante dans tous les processus décisionnels. Prendre ce risque climatique en compte dans toutes les décisions politiques financières et institutionnelles.
Ça veut dire activisme, lobbying, évidemment, et pour cela, avoir des métiers différents, j'imagine, des formations différentes qui peuvent se rejoindre sur l'environnement. C'est ça que vous allez apprécier aussi avec ces missions tous les 3 mois à l'ONU, Nathan ?
Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est à la fois d'être en contact avec tous les jeunes, de pouvoir comprendre aussi quelles sont les réalités, donc avec des jeunes qui parfois viennent de milieux sociaux très différents,
oui,
qui font face à des gouvernements qui peuvent être extrêmement hostiles, comme au Brésil, ou à des situations environnementales comme tout en ce moment au Soudan, avec des immenses inondations dans le pays, et donc de pouvoir porter cette voix, porter aussi des messages, par exemple, de faire en sorte que, vous parliez de la biodiversité, que la crise de la biodiversité que nous vivons, vous parliez des zones humides, mais il faut savoir aussi que les zones humides, on en a perdu 90%. Et or, ces zones humides, elles servent effectivement à filtrer l'eau, mais elles servent aussi, par exemple, à capturer le carbone pour faire face à la crise climatique. Donc faire remonter des revendications, des demandes au plus haut niveau d'action politique.
Bah, ça va être passionnant parce que c'est aussi une connaissance de la géopolitique et des préoccupations climatiques un peu partout dans le monde. 7 pays, en tout cas, représentés au sein de ce groupe consultatif à l'ONU. Vous êtes le premier Français à y siéger, Nathan Métainier. On pourra suivre vos aventures aussi sur votre compte Twitter. N'hésitez pas à nous en informer. Merci de votre présence ce soir sur Europe 1. Dans un instant, beaucoup. Une chanson dans la tête.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard, une chanson dans la tête.
C'est votre rendez-vous musical sur Europe 1 avec notre spécialiste de la chanson française, 19h43. Bonsoir Fabien Lecoeuvre.
Bonsoir Wendy et bonsoir à tous.
Hier, Grand Corps Malade a sorti un tout nouvel album intitulé Mesdames, partition qu'il dédie à toutes les femmes.
Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre jante que j'admire qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation.
Mesdames, le 7e album studio de Fabien Marceau, plus connu sous le pseudonyme de Grand Corps Malade, un nouveau disque qui rassemble, Wendy, 9 duos avec exclusivement des femmes. On y retrouve Véronique Sanson, Louane, Laura Smet et bien sûr l'humoriste et chanteuse Camille Lelouch, avec laquelle il interprète « Mais je t'aime », l'un des titres d'ailleurs les plus diffusés cet été, et notamment sur Europe 1.
Je t'aime du plus fort que je peux. Je t'aime et je fais de mon mieux.
On m'avait dit « Attends, tu vas voir, l'amour c'est un grand feu ». Ça crépite, ça illumine.
C'est un
ça
album
brille,
magnifique et vraiment ça couronne cet album et autant d'années de carrière pour Grand Corps Malade qui a imposé son style, même s'il a failli ne jamais devenir chanteur. C'est ça qui est incroyable que vous nous révélez.
Oui, et oui, Wendy, vous avez raison, puisque Fabien se destinait à faire une carrière de basketteur professionnel. Et à l'âge de 20 ans, il était basketteur dans l'équipe d'Aubervilliers. Et puis ses talents de sportif avaient été vite remarqué, si bien qu'à la rentrée 1997, il devait intégrer le centre de formation professionnelle de Toulouse. Mmh. Ainsi, Fabien aurait pu devenir, on va dire, un très grand sportif. Mais un mauvais plongeon dans une piscine le 16 juillet 1997 a mis fin à son rêve. En effet, grièvement blessé à la moelle épinière, Fabien ne retrouvera l'usage de ses jambes qu'après un an de rééducation, intensive en tout cas, et dont il garde d'importantes séquelles.
Oui, et c'est terrible. C'est finalement cet accident qui va décider de son destin d'artiste.
Exactement, Wendy. À partir de là, sa vision de la vie prend une toute autre dimension, bien sûr. Il se retourne dans son autre passion de jeunesse, l'écriture. Et puis un jour, en octobre 2003, la chance le conduit jusqu'à la rue des Dames, près de la place de Clichy à Paris. Et ce jour-là, dans un bar, il découvre le slam durant une scène ouverte.
Je viens de là où les mecs traînent en bande pour tromper l'ennui. Je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Et même si on les achète au marché, on plaisante pas avec le style.
Alors, le slam, version Grand Corps Malade.
Et oui, et pour jouer un peu ce soir les Stéphane Bern de la chanson dans Historiquement Vôtre, justement, le slam est une discipline née à Chicago dans les années 80. Qui se développe en France à partir seulement de 1995. Alors Fabien, le futur Grand Corps Malade, a une véritable révélation pour cette discipline, à mi-chemin, on va dire, entre la musique, poésie et one-man show,
finalement. Il y a
finalement
quand même un pas entre aimer l'écriture et enregistrer un premier album. Qu'est-ce qui va l'amener à cela ?
Et oui, alors en 2006, il prend comme nom de scène Grand Corps Malade, après avoir hésité avec un nom qu'il aimait bien, Petit Œil Malicieux.
Ah, c'est pas mal.
C'est comme ça, il se lance dans le slam qui lui apporte la gloire en 2006 avec son tout premier album Midi 20 qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires suivi d'une tournée de 120 dates où il interprète tous les soirs
les voyages en train.
Je crois que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train et quand je vois tous ces voyageurs parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'était potes.
Premier succès, donc 2006 pour Grand Corps Malade.
Et oui, les textes sont puissants. Et savez-vous, Wendy, qui avait produit ce premier album de Grand Corps Malade ?
Je sais, oui, c'est le gendre de Charles Aznavour.
Absolument, c'est Jean Rachid, le gendre de Charles Aznavour, puisqu'il a épousé Katia, la fille de Charles. Et Charles, qui avait d'ailleurs beaucoup d'admiration pour Grand Corps Malade, qu'il avait parrainé.
Oui, ils ont chanté ensemble d'ailleurs. Hein. Belle chanson sur la transmission, c'était sur le troisième album de Grand Corps Malade en 2010, donc duo avec Charles Aznavour.
J'étais assis sur un banc, 5 minutes avec moi, perdu dans mes pensées qui me parlaient sans voix. Dans un parc un peu désert, sous un ciel sans couleur, un moment un peu d'air, dans une bulle sans humeur. Un vieil homme approcha, fermant ainsi cette parenthèse. Il s'assit à côté de moi et me regarda, l'air à l'aise. Avec un regard confiant, il me dit cette phrase sans astuce. Quel dommage
que les gens ne se parlent pas plus. Je ne me croyais moi.
Ce sont toujours des films, ces chansons, c'est impressionnant. Hein.
Totalement, absolument.
Grand Corps Malade qui s'est aussi illustré comme scénariste-réalisateur au cinéma avec le film Patient.
C'est vrai, Wendy, en fait, il a fait d'abord un roman autobiographique en prose
sur son histoire
oui. Paru en 2012 et dans lequel Grand Corps Malade racontait sa douloureuse et lente rééducation après son terrible accident. Le livre a été un tel succès qu'il a été adapté au cinéma en 2017 sous le même titre. Et là encore, le film a été un immense succès. Il a fait plus de 1 300 000 entrées au mois de mars 2017 et a eu 4 nominations au César 2018.
Et c'est un film documentaire extrêmement fort. Côté chanson, Grand Corps Malade est aussi très proche de Renaud. Il a même repris la chanson La Médaille, une grande chanson de Renaud.
Un pigeon s'est posé sur l'épaule galonnée du maréchal de France. Et il a décoré la statue dressée d'une gastrique offense.
Et leur complicité est allée loin.
Oui, en tout cas, on peut l'affirmer aujourd'hui, c'est bien Grand Corps Malade qui a été le déclencheur du retour de Renaud, il faut le rappeler, sur le devant de la scène en 2016. Renaud n'avait plus envie de chanter, plus d'idées, et en 2015, c'est Grand Corps Malade qui, en lui faisant enregistrer Ta Batterie, vous savez, c'était une chanson pour son fils Malone, bien sûr, lui a redonné l'envie de refaire des chansons et de revenir avec Toujours Debout. Il faut savoir que Renaud et Grand Corps Malade partagent tous les deux une grande admiration pour Georges Brassens. Chaque dimanche, quand il était enfant, les parents de Grand Corps Malade écoutaient des chansons de Brassens. C'était un rituel dans la famille Marceau. Et puis enfin, puisque Grand Corps Malade vient de sortir un si bel album consacré aux femmes, je voulais finir avec la plus belle déclaration d'amour jamais entendue intitulée « Dimanche soir ».
Parce qu'avec toi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pic de...
C'est un très grand artiste, Fabien Marceau,
immense.
Grand Corps Malade. Une écriture vraiment admirable. Hein. Et là, on ne fait pas des compliments hasard. Il faut lire ses textes, il faut les écouter. Ce septième album est très très beau.
Ouais.
Demain, Fabien ?
Demain, on se retrouve. Je vous parlerai de Vanessa Paradis à l'occasion, bien sûr, de la clôture du 46e festival du film américain de Deauville, dont elle est la présidente cette année.
Merci beaucoup, Fabien. Le cœur, une chanson dans la tête revient demain. Juste après la pause.
Wendy Bouchard.
Ce sera une date, une histoire. Le philosophe André Comte-Sponville est l'invité de Philippe Legrand pour Paris Match et Europe 1.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Une date, une histoire.
Chaque samedi, 19h52 sur Europe 1, une personnalité se souvient d'un fait de notre histoire qui nous a marqué. Ce soir, pour Europe 1 et Paris Match, vous recevez Philippe Legrand. On vous écoute. Bonsoir.
Bonsoir Wendy. Bonsoir à tous. Bonsoir André Comte-Sponville.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Alors, quand on s'adresse à vous, André Comte-Sponville, on parle au philosophe, l'un des philosophes français les plus lus et les plus traduits dans le monde. Mais aussi, vous êtes passionné par l'histoire et notre histoire contemporaine. À la question, la date qui vous aurait marqué dans cette histoire qui est la nôtre, ce 20e et 21e siècle, vous avez choisi de nous raconter, de nous parler à nouveau de ce 10 mai 1981. Pourquoi cette date ?
Pour trois raisons, finalement. La première, c'est que c'est sans doute l'événement historique que j'ai attendu le plus longtemps, pendant 13 ans, entre mai 1968, où je découvre passionnément la politique, et le 10 mai 81, et pendant 13 ans, je me suis battu pour cette union de la gauche, pour une victoire électorale, et enfin, ça arrive. Et donc, j'aurais dû être joyeux comme tous les Français de gauche, quoi. J'aurais dû être à la Bastille, sous la pluie, dans l'allégresse. Et je n'y étais pas parce que ma fille est morte 3 jours plus tôt, le 7 mai. C'était notre premier enfant. Et bien sûr, ça a été une leçon. Ça a été d'abord une souffrance atroce. Mais j'ai pris le 10 mai 80, pas pour parler de ma fille, mais pour constater ce contraste entre une allégresse collective, tout à fait légitime, hein, c'est un bon souvenir, le 10 mai 81, et un drame personnel. Et pour constater la différence d'échelle, évidemment. C'est-à-dire que non seulement je n'étais pas à la Bastille, mais j'étais en larmes, j'étais brisé de chagrin. Et ça m'a aidé à remettre la politique à sa place. Vous voyez, moi j'ai beaucoup milité, je reste tout à fait intéressé par la politique, mais disons que ce drame et la conjonction entre ce drame et cette allégresse collective m'a aidé à remettre la politique à la place. Et puis la troisième raison, c'est que la suite a été décevante, c'est-à-dire que ce pourquoi je m'étais battu avec passion pendant 13 ans, l'arrivée de la gauche au pouvoir, ce qu'on appelait au Parti communiste dont j'étais militant une démocratie avancée qui devait mener au socialisme, 2 ans plus tard, en 83, c'est l'échec total. Alors ce qu'on appelait le tournant de la rigueur, mais il faut rappeler que le tournant de la rigueur, c'est pas une trahison de François Mitterrand ou de Jacques Delors, c'est simplement que la France, après 2 ans d'une politique de gauche traditionnelle, hausse des salaires, réduction de la durée de travail, retraite à 60 ans, etc., toutes mesures qui me paraissent tout à fait heureuses, mais la France était exsangue. Il y a eu 3 dévaluations en 18 mois, c'est quand même extraordinaire. Et donc, j'ai bien dû constater en 83, mais comme tout le monde, que ça avait échoué, que je m'étais battu avec enthousiasme pendant des années pour un programme commun qui finalement était un échec. C'est pour ça que j'ai pris cette date. La gauche n'en a jamais tiré les leçons.
On va s'arrêter sur ce 10 mai 1980 que vous avez vécu, vous le dites très bien, entre cette joie et ce drame profond, cette déchirure que vous racontez. Il y avait ces mots-là aussi ce soir-là de François Mitterrand au micro d'Europe 1. On retrouve ce témoignage. Il prend la parole. En voici un extrait et il évoque l'espoir.
Il n'y a eu qu'un vainqueur le 10 mai 1981. C'est l'espoir. Puisse-t-il devenir la chose de France la mieux partagée. J'avancerai sans jamais me lasser sur le chemin du pluralisme, confrontation des différences dans le respect d'autrui. Président de tous les Français, je veux les rassembler pour les grandes causes qui nous attendent et créer en toutes circonstances les conditions d'une véritable communauté nationale.
Alors voilà, on sent un président François Mitterrand élu à 51,8% des voix ce 10 mai 1981 qui entre dans l'histoire avec des mots forts.
Oui, mais là, l'espoir que j'ai partagé m'importe moins que la déception qui a suivi. Et ça m'a aidé aussi à comprendre que la politique est moins affaire d'espoir ou de rêve que de volonté. Et donc le 10 mai 81, ça m'a aidé au fond à me guérir de l'utopie, à me guérir d'une politique qui veut proposer du rêve. Je crois que nous avons besoin au contraire de lucidité, de courage, de volonté. Ce n'est pas du tout une raison pour renoncer à une politique de gauche, mais ça veut dire que la gauche a besoin de réussir. Et pour que la gauche réussisse, elle a besoin d'être lucide plutôt que d'être utopique.
André Consponville, vous qui publiez le Dictionnaire amoureux de Montaigne aux éditions Plomb, avez-vous parlé de ce Montaigne et de sa sagesse au président François Mitterrand ?
Non, je n'ai jamais rencontré François Mitterrand, mais je rappelle dans mon Dictionnaire amoureux de Montaigne que parmi les admirateurs innombrables de Montaigne, depuis Shakespeare jusqu'à Welbeck, si vous voulez, il y a François Mitterrand. Vous vous souvenez que dans la première photo présidentielle de François Mitterrand, il est dans son bureau, si je me souviens bien, il a la main posée sur un livre. Quel livre ? Les Essais de Montaigne. Et ça en dit long sur la place de Montaigne dans notre histoire.
Pour finir, si on devait au fond trouver dans notre répertoire des chansons contemporaines et populaires un titre, que pensez-vous de Là-bas, de Jean-Jacques Goldman, pour raconter ou définir ce Montaigne tourné vers les Lumières et la Liberté ?
Écoutez, comme Montaigne adorait les voyages, c'est un très bon choix, mais je terminerai par une citation de Montaigne dans son journal de voyage. Montaigne écrit « Je ne vais qu'où je suis ». Et donc, quand on va là-bas, c'est le principe du voyage, n'oublions pas qu'à chaque pas, à chaque foulée, nous sommes toujours ici. Je crois que le charme du voyage tient justement dans cette tension entre l'ici où l'on marche et le là-bas où l'on va.
Merci de nous avoir entraînés en marchant dans cette histoire du 10 mai 1981 et sur les routes de Montaigne sur Europe 1. À bientôt. Au revoir André Consponville.
Merci à vous. Au revoir.
Là-bas,
C'était une date, une histoire. Philippe Legrand, en clôture de ce 18-20, ce grand journal du week-end. Je vous retrouve demain avec grand plaisir dès 18h. Merci à Juliette Berger, Valérie Danan qui m'ont aidé à préparer cette émission et Rémi Duprat à la réalisation. Cher Fabien, je vous dis au nom des auditeurs, à demain, portez-vous bien. Bonne soirée.
Europe Soir Weekend, Wendy Bouchard.